Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Aujourd'hui, on a encore un showcase d'indé. On va voir ce que Patrick va en penser. On a aussi la BlizzCon qui n'aura pas lieu cette année après être revenue triomphalement l'année dernière. Et puis, pour le fun, on va parler un petit peu de ce que pourrait être l'E3, enfin le Summer Game Fest, enfin le truc quoi, vous savez, le truc qui se passe en juin. Allez, c'est parti pour tout de suite dans le rendez-vous jeu. C'est parti pour tout de suite. Ah, il aurait fallu que je la refasse celle-là.
J'ai rien dit. Je me suis moqué un petit peu silencieusement. Garde-la. Justement, ce sont tes erreurs qui t'ont rendu main, Patrick. Tu sais.
C'est ça. Parce que le jour où les IA parfaites feront des podcasts lisses et sans problème, vous direz ah, vraiment, Patrick qui dit des bêtises, il n'y a que ça de vrai. Je prépare. Merci beaucoup, Jika, d'être avec moi. Oh, ça faisait un mois.
Ça va? Bah, au moins, je pense, j'avoue, je ne sais plus quel est le dernier, mais oui, il y a eu une semaine où t'étais off. La semaine dernière, c'était Kassim qui m'a remplacé. Ah bon, je l'aime beaucoup, Kassim, donc évidemment que je serais content de l'avoir. Hein, je suis content qu'il est avec toi. Donc, du coup, je suis content de revenir. J'ai envie de parler de plein de jeux. Il y a beaucoup de sujets sympas. Donc, et tu m'as un peu manqué aussi, il faut dire.
Bon, ok, très bien. Je t'avais dit, avant de lancer l'enregistrement, dis-le dans l'émission. C'est ça aussi qui rend humain. J'ai regardé un petit peu les jeux dont tu vas parler. Il y en a un, il est très très JK Core. Hein.
Le troisième, ouais.
Ouais, exactement. On fait un petit teasing.
J'ai pas parlé d'un truc comme ça.
Donc merci d'être avec nous, ça me fait toujours super plaisir. Merci aussi aux Patriotes, aux nouveaux Patriotes, enfin à la nouvelle Patriote, Elsa SR Gamer. Merci d'avoir rejoint la famille des Patriotes du rendez-vous jeu. Vous pouvez aussi rejoindre, vous, la famille, en allant sur patreon.com/rdvjeu. Vous voyez, c'est un petit peu... vous rejoignez la famille, c'est un peu comme si je vous adoptais, en fait. C'est pas très compliqué, hein, y a pas de grande formalité administrative, ça coûte pas très cher, pour pas grand-chose par semaine. Vous pouvez faire partie de la famille, alors pas de la famille Béja tout à fait officiellement, mais de la famille RDVJ. Vous pourrez vous appeler, par exemple, Jean-Jacques RDVJ. C'est un avantage du Patreon, patreon.com/rdvjeu. Et merci aussi aux producteurs Lancelot Devizard et Steph Sinalco. Gros, gros bisous à vous et à tous ceux qui soutiennent l'émission. Et vous savez quoi? On va se lancer tout de suite dans la première partie. Les infos à retenir cette semaine. Avec, en premier lieu, première info de la semaine, encore un showcase d'indé. Je n'en peux plus. Ça suffit maintenant. Vous dites-vous que je vais dire. Puisque vous vous en souvenez, on a eu, il y a trois semaines, on a eu le showcase Triple I Initiative, qui était une sorte de orange mécanique injecté dans les yeux. C'était un petit peu difficile à tenir. Et puis on a eu 2 semaines plus tard le Nintendo Nintendo Indie World. C'est là que je me suis énervé contre les poncifs du jeu indé et les clichés pour les jeux et pour les présentations. Ça a marqué les gens parce que sur Twitch, dès qu'on est arrivé en live avant même le lancement de l'enregistrement, il y a plusieurs personnes qui ont dit « Ah, alors Patrick va encore s'énerver contre les indés slovaco-brésiliens avec des hamsters sur les genoux qui parlent de leur jeu de collection d'autocollants. » Et donc... Vous vous dites, encore un truc indé. Et moi, je dois avouer que j'étais parti dans cette présentation du ID at Xbox, donc présentation de jeux qui vont arriver sur Xbox spécifiquement. En plus, c'était présenté par IGN, qui est un gros média américain, jeux vidéo, avec des présentateurs. Le son était décalé, ils faisaient leurs blagues un peu débiles. Enfin, bon, ça partait pas très bien. Et vous savez quoi? Au final, j'ai repris foi en moi-même parce que je l'ai trouvé vachement bien, cette présentation de jeu indé. C'était vraiment genre, vous savez, Kaby Lane qui fait ses vidéos sur TikTok avec, en faisant des reviews de vidéos de gens qui montrent des manières super compliquées de faire des trucs simples, genre comment éplucher une banane en 3 secondes seulement. Ils utilisent un couteau, un tire-bouchon, ils la font tournoyer 3 fois autour de leur tête. Et Kaby Lane, il regarde ça, il fait « Non mais... tu ouvres la banane, tu prends, tu fais clac et c'est ouvert. » Et il montre avec les deux mains comme ça, c'est très drôle. Et bien là, c'était un peu pareil pour moi. C'était vraiment, voilà, une showcase indé qui n'est pas une collection ridicule de 12 000 indés différents, enfin de 12 000 indés super wholesome sur leur canapé, comme on les a vus il y a 2 semaines ou 1 semaine. Et ce n'était pas non plus le truc où on n'avait que des énormes indés avec le Triple E Initiative qui était déjà sorti, ça m'avait beaucoup frustré dans le Triple E Initiative, avec des trucs qui sont des DLC de jeux sortis il y a 2 ans, 3 ans, qu'on connaît, qui sont des super succès de toute façon. Non, là, on avait des jeux différents, intéressants. Tous les 2 jeux, tu te disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ils tentent des choses. Le principe de l'indé, c'est pas de faire des jeux wholesome et sympas. Bien sûr, ça peut être cool d'avoir ça. Mais le principe, c'est que tu as des jeux qui ont un budget plus faible, qui peuvent donc rentrer dans leur budget avec moins de joueurs et qui ont donc moins besoin de séduire, de faire le consensus pour séduire le plus grand nombre de joueurs possible, comme c'est le cas avec les triple A. Là, les jeux indés, si tu as X dizaines de milliers de ventes, eh ben ça peut aller. Donc, tu peux tenter des trucs qui ne plairont qu'à un plus petit nombre de joueurs. Et des trucs bizarres, des trucs différents. Alors oui, il y a du pixel art, oui, il y a parfois des trucs wholesome, oui, il y a parfois... Enfin, tout ça, oui, bien sûr. Mais tu as aussi des choses qui t'interpellent. Et c'est pas que des trucs super wholesome, mignons, quoi. Et il y en avait, et on va en parler. Mais du coup, j'ai été surpris, j'ai repris espoir, quoi. Je me suis dit, mais oui, l'un des cools qui est pas saoulant, ça existe. Du coup, Jika, Patrick reprend foi. Est-ce que toi aussi, tu as été plus convaincu par celui-là que par les précédents qu'on a eus ces dernières semaines ? Allô ? Tu es muté ?
Alors, en termes de format, oui, même si... Ouais, tu m'entends ?
Oui, non, c'est bon.
Allô ? C'est bon, ouais, en fait, il y a des micro-coupures, j'espère que ça vient de chez moi et pas de chez toi, mais je disais... Oui, donc en termes de format, oui, même si... Ouais, enfin, disons que ce que tu décris là, de manière à des fois un petit peu exagérée, je le comprends tout à fait, tu vois, les mecs sur leur canapé, etc. Et c'est vrai que, par exemple, tu vois, l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière, quand il y avait eu le fameux Wholesome Show, je ne sais plus comment il s'appelait.
Wholesome Direct. Non, mais ça, c'était...
C'était l'overdose, en fait. Et de toute façon, moi, en vrai, je ne suis pas très sensible à l'esthétique Wholesome, ce genre de truc. Donc, tu vois, moi, si je dois citer un jeu là dans la liste, c'est Sentoum, dont on
va en parler.
Hyper chelou, hyper creepy, etc. Évidemment. Donc, voilà. Après, en termes de contenu, ouais, y a... Après, moi, je retiens vraiment que 2-3 jeux. Hein. Tout ne m'a pas plu. Et parce qu'en fait, je me rends compte que, d'une manière générale, dans ces showcases indés, que ce soit ceux-là ou les précédents, quand je regarde à la fin de l'année les jeux indés auxquels j'ai joué, la plupart, en fait, c'est des jeux qui n'étaient pas dans ces trucs-là. C'est des jeux que j'ai découverts par hasard. C'est des jeux que j'ai découverts par curation. Tout à l'heure, on va parler de Minishot Adventures. Par exemple, Minishot Adventures, je ne crois pas l'avoir vu dans un showcase indé, alors qu'il a eu largement sa place, tu vois. Donc au final, maintenant, ces showcases-là, je les regarde. Mais voilà, je les regarde un petit peu avec un peu plus de détachement, où je ne vais pas mettre mes trucs en wishlist à chaque fois que je vois un truc. Donc voilà, donc là, il n'y a vraiment que deux, trois jeux que je retiens qui m'ont vraiment botté. Le reste, j'attends de voir un peu, encore une fois, éventuellement des previews, des streams, etc. quoi.
Mais c'est ça le principe de l'indé. Ils vont justement essayer des trucs différents, des trucs qui ne vont pas plaire à tout le monde. Et donc, évidemment, le but n'est pas d'adorer tout ce qu'ils présentent. Par contre, si tu es intrigué par 2 ou 3 choses différentes, et à vrai dire, même si tu ne te dis pas « celui-là, je vais y jouer absolument », il y en a plein, moi, que j'ai noté, dont je me suis dit « bon, ce n'est pas forcément pour moi, mais c'est intriguant, c'est intéressant, tu vois ». Et rien que ça, je trouve que c'est comme ça que devrait être... formater les présentations de jeux indé, ou en tout cas c'est ça qui me plaît.
Oui, parce que l'indé c'est pas un genre de jeu, tu vois, on a tendance des fois à mettre tous les indés dans le même panier, parce que ces showcases là, des fois, effectivement, comme tu l'as dit, ont tendance à mettre en valeur, en avant, le même style de jeu, le même style de présentation, etc. Du coup, ça réduit vachement le, bah, ce qu'on pense des jeux indés, alors que c'est justement le principe, c'est que c'est tout sauf, sauf uniforme, les jeux indépendants. Donc, ouais. Donc voilà, heureusement qu'il y a, et c'est vrai que ce que je peux reconnaître à ce showcase Microsoft, c'est que Xbox, c'est qu'il a été quand même assez varié, tu vois. Il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de propositions différentes.
Alors justement, dis-nous ce que toi, tu retiens. Tu mentionnais Centum. Ça me surprend pas.
Pourquoi Centum, parce que j'ai vu que tu avais mis une catégorie des jeux qui font peur. Au début, quand j'ai vu le trailer Le Conducteur, je pensais que c'était les jeux que tu avais trouvé vraiment nuls, tu vois, vraiment affreux. Et tu vois, je me suis dit, ouais, quand même, il est dur, parce que pour le coup, Centum, ça coche un peu toutes les cases de ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire du joli pixel art et de l'horreur, des trucs un peu crado. Et là, pour le coup, ça a l'air quand même assez dans ce truc-là. Donc, cette salade est un point and click horrifique. Très bizarre, très étrange, avec à la fois de l'horreur, du body horror, des trucs à la Cthulhu, je sais pas trop. C'est mystérieux, c'est gothique, enfin vraiment, je trouve vraiment ça très beau, tu vois. Enfin, je pense qu'on voit là, en termes de pixel art, je trouve que c'est détaillé, c'est vraiment pas mal du tout. Ça me rappelle un peu le style graphique de The Game Kitchen, le studio espagnol qui a fait Blasphemous et The Last Door avant. C'est un peu le même esprit, j'ai l'impression, donc ça a l'air vraiment très chouette.
Pour vous donner une idée, moi, quand je regarde parce que je fais bien mon travail, quand je regarde les trailers, les showcases, les trucs comme ça, je prends des notes pour chaque jeu et pour essayer de me souvenir un petit peu de quoi il s'agit, même quand j'ai plus le trailer en tête. Et par contre, je mettrai bien sûr les trailers dans la newsletter, donc vous pouvez aller regarder dans la newsletter, pas besoin de retenir les noms, les machins, ils seront tous dans la newsletter pour voir à quoi ça ressemble. Et pour Centum, j'ai mis pixel art, horreur, angoisse, médiéval, point and click, /, réalité parallèle, .. fichier ordinateur. Donc vous voyez un petit peu le genre de truc bizarre que c'est, parce qu'à un moment il y a une image de desktop, et à un moment on a du point and click dans un univers médiéval fantastique, et puis en même temps on a du monde moderne. Enfin c'est vraiment, c'est pile le genre de jeu, et du body horror, c'est le genre de jeu, tu finis le trailer, tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Et pour le coup c'est vraiment intriguant et original.
Ouais, c'est clair, c'est très intriguant. Donc ouais, celui-là, clairement, je le mettrais probablement en haut de ma liste, en tout cas de l'intérêt que je peux porter par rapport à ce que j'aime. Alors, t'avais mis aussi Sulfur dans les jeux qui font peur. Alors, Sulfur, je pense qu'il fait peur pour d'autres raisons, parce que c'est quand même assez moche, on va pas se mentir. C'est un FPS, Sulfur, un FPS dans un style qu'on pourrait qualifier de sauce parquesque, j'ai envie de te dire. C'est presque une sorte d'animation très minimaliste avec un trait très grossier. Ceci étant dit, déjà, c'est un FPS, donc déjà, de base, tu me vends à moitié le truc. Et en plus, ça a d'être un truc un peu fast FPS, hyper bourrin, avec une ambiance très décalée, une sorte d'humour un peu noir, un peu, enfin, ça a l'air très étrange aussi. C'est pas forcément un jeu horrifique, j'ai pas l'impression que ce soit un jeu d'horreur, en tout cas, comme Centum. Mais franchement, je suis curieux. Enfin, vraiment. Mais par contre, c'est vrai que c'est assez repoussant. Visuellement, c'est un peu spécial.
Bah, moi, je trouve pas ça moche. Dit, effectivement, c'est un FPS. On a l'impression de jouer à South. Enfin, pas tout à fait South Park, mais ce genre de truc animé, mais en FPS avec des monstres un petit peu partout et des armes différentes, des sorts. Enfin, c'est particulier, quoi. Mais oui, peut-être
avec beaucoup de loot. Apparemment, tu peux récupérer beaucoup de collectibles. Tu sais pas trop à quoi ça sert.
Ça a l'air. Bon, moi, ça m'a intrigué, en tout cas, là aussi. Il y a d'autres choses que tu as retenues ?
Ouais, moi aussi, carrément. Et bah, alors, celui-là, bon, c'est pour le coup, c'est même pas vraiment un indé, hein, mais c'est le Lost Record de Dontnod.
Oui.
Qui, franchement, moi déjà, lors du premier trailer qui avait été diffusé, je sais plus quand, peut-être l'été dernier, j'imagine, ça m'avait bien plu. Puis déjà, c'est l'équipe derrière Life is Strange, donc c'est Dontnod de Life is Strange qui sont. Pardon, c'est les Life is Strange de Dontnod qui sont clairement les meilleurs épisodes de la série, quoi. Et là, je trouve qu'à la fois, tu retrouves un peu l'esprit Life is Strange, mais tu as l'air d'avoir autre chose. Moi, pour le coup, je suis quand même très sensible à l'esthétique qu'ils ont voulu faire. Donc, comme tu disais, dans Conducteur, un camcorder, genre un peu VHS, analogue, ouais. etc. Moi, j'aime bien cette esthétique-là. C'est très mystérieux. Enfin, voilà. Ça a l'air d'être un jeu qui joue sur deux timelines différentes avec un passé, quelque chose qui s'est passé dans un groupe d'amis pendant une certaine période dans les années 80, puis après, cette chose-là qui ressort des années plus tard. Et franchement, je suis hyper intrigué et j'ai vraiment confiance en Dontnod là-dessus pour en tout cas raconter une histoire cool. Après, qu'est-ce que ça va donner en termes de gameplay ? Est-ce que ça va être juste un truc à la Life is Strange, donc une sorte de point and click, un jeu d'aventure très light ? Je sais pas, mais déjà, moi, je suis vendu par rapport à la proposition d'ambiance qu'ils font, quoi.
Ah bah l'ambiance. Alors déjà, je dois dire, c'est difficile de voir maintenant un trailer d'un jeu Dontnod sans penser au rapport qu'on a eu sur la toxicité dans la boîte, alors qu'ils font des trucs super justement inclusifs, wholesome dans leur jeu. C'est un petit peu dissonant. Alors
attention, tu confonds avec le studio, l'autre studio qui fait la Sims Rage. Hein, ça, c'est pas Dontnod.
Non, mais Dontnod, il y a eu aussi
des... Dexortine, je crois.
Non, Dontnod, il y a eu...
Alors, Dontnod, ouais. Ouais, mais oui, il y a 2-3-6 mois de ça, il y a eu un truc du STJV qui était quand même beaucoup moins à charge. Hein. Enfin, c'était pas... Enfin, bon, bref. Je connais non, des gens qui bossaient chez Dontnod. Voilà, mais c'est pas comparable, en tout cas, ce qui est sorti chez Hangar. C'est Dexortine, je crois, le développeur. Là où c'était vraiment problématique. Mais bon, effectivement, c'est à prendre en compte aussi, je suis d'accord.
Et du coup, on nous dit que c'est un problème de gestion de projet et de rapport avec l'éditeur. Malo est dans la chatroom, donc il nous précise. D'accord, très bien. Bon, bah, écoute, comme quoi, tu vois, ça s'est peut-être un petit peu embrouillé dans mon esprit. Mais du coup, oui, là, on est... Enfin, c'est camcoder, effectivement. T'as l'impression d'avoir la VHS. Il joue à fond sur les années 80 avec les trucs... Ouais. Les vêtements, comment dire... C'est pas hyper fluo non plus, ça c'est plus 90, mais...
C'est même plus années 90 qu'années 80, je trouve, moi, au niveau du style vestimentaire, etc.
Ouais,
bah, je sais pas, j'ai l'impression que je trouve plutôt un esprit années 90. Et clairement, ce genre d'esthétique, ça peut autant repousser les gens que les attirer. Chez moi, ça marche, mais je peux aussi comprendre qu'on est un peu une overdose, parce que c'est un truc qui est très à la mode. Hein.
Je trouve que c'est pas mal fait. Le format est donc 4 tiers avec les lignes d'enregistrement de VHS, tout ça. Enfin bon, après, c'est intriguant également. Quelques jeux, c'est tout ou il y en a d'autres que tu as retenu?
Ouais, c'est vraiment les trois que j'ai retenus, donc je te laisse parler des autres si tu veux.
Alors, Astor Blade of the Monolith, c'est hyper classique. Ça a l'air hyper classique en tout cas. C'est un jeu d'action troisième personne avec que j'ai trouvé assez beau, mais comme il ouvrait la conférence, je l'ai retenu, sans doute, vous savez, c'est la place, c'est la tête de gondole. Et ça a l'air d'être une sorte de, je sais pas, peut-être Zelda en 3D vu derrière, mais genre Zelda classique, quoi. Un jeu qui ne fait rien d'incroyable, j'ai l'impression, mais qui, je sais pas, je le sens bien. Et puis c'est
un jeu qui a un bel univers et qui... Ouais, c'est un jeu qui a un bel univers qui ressemble un peu à Kena, Bridge of Spirit. Je sais pas si tu te souviens de ce jeu qui est sorti il y a 3-4 ans maintenant et qui était un peu à la Zelda, mais en 3D. Mais les Zelda en 3D de l'époque Nintendo 64 où tu vois, un peu plus linéaire. Donc ça a l'air d'être un peu dans cet esprit-là, effectivement.
Et beaucoup plus centré sur l'action. Là, le gameplay a l'air important.
Combats,
ça a l'air plutôt bien foutu. Donc voilà, j'ai retenu ça. Il y a aussi, on pensait que le genre du Battle Royale était passé de mode. Mais en fait, il y a Stampede Royale, qui est un jeu de cartes en Battle Royale. Alors, c'est juste ça, hein, pas besoin d'aller plus loin dans la description. C'est un jeu de cartes en Battle Royale. Et comme à chaque fois qu'il y a un Battle Royale, c'est vraiment, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Celui-là, il aurait peut-être intérêt à être free-to-play, je pense, ou inclus dans plusieurs PlayStation Plus et Game Pass et ce genre de trucs. Mais là, c'est le genre de jeu où je me dis « Ah, pourquoi pas ? Je risque de pas y passer des heures non plus. » Mais un jeu de cartes en Battle Royale, voilà, why not ? J'ai noté aussi Fera de Thunder Tribe, qu'on avait déjà vu il y a quelques mois également. Mais franchement, ça a l'air... intrigant, là encore, je suis curieux d'en savoir plus. C'est un jeu qui est un mélange de Monster Hunter, survie, construction de base, et surtout, il a des mécaniques dans un monde, on va pas se mentir, ça a l'air un petit peu inspiré d'Avatar, donc avec des endroits où on peut beaucoup voler, des grandes, c'est peut-être pas des îles flottantes, mais le monde a beaucoup, beaucoup de verticalité. Et donc, on a le déplacement dans les airs qui est hyper important et qui est sympa, qui a l'air d'être sympa à faire avec des ailes, bien sûr, qui nous permettent de voler, de prendre de la vitesse en descendant puis en remontant. Et on a aussi un gros crochet, comme on dit, pas un crochet, mais un hook, je perds le nom. Vous allez m'aider. Un grappin, merci la chatroom.
Un grappin.
Voilà, un grappin pour se déplacer. Et ça sert aussi dans les combats à la Monster Hunter, genre l'aspect dans les airs sert aussi dans les combats. Donc, et en plus, c'est assez beau, c'est un style très stylisé, très saturé, qui est plutôt cool. Ça fait un petit peu Fortnite, ce genre de style, mais c'est plutôt cool, et je suis curieux de voir ce que ça donnera aussi. Donc ça s'appelle Fera, the Thundered Tribes.
C'est vraiment, on dirait, un mix entre effectivement Avatar et Breath of the Wild, tu vois, en termes d'esthétique, tu vois, et puis t'as la paravoile, Ouais, c'est joli. Après, le côté Monster Hunter Co-op, moi, c'est pas trop mon truc, mais c'est quand même assez beau. Hein. Franchement, enfin, je sais pas, je connais pas la taille de l'équipe derrière, mais j'imagine que c'est pas des grosses équipes. C'est quand même impressionnant.
J'attends encore le Monster Hunter like qui me fera aimer les Monster Hunter. Je suis même pas rentré dans Monster Hunter World, donc il y a encore une place à prendre dans le cœur de Patrick. Enfin, j'y ai joué, je sais pas, bien 10-20 heures à World, mais j'ai pas énormément accroché. Et donc, bon, il y a encore une place, peut-être que celui-là la prendra. Et puis, je conclue avec deux jeux qui avaient des chansons formidables. D'abord, Times and Galaxy, sur lequel j'ai même pas énormément de choses à dire, mais attends, je vais voir si on peut vous faire écouter un petit peu la chanson. C'est exploration, j'ai noté un système solaire à explorer, chanson, exploration. Alors, c'est style très dessin animé, ça a l'air... je sais pas, je sais même pas ce que c'est, mais la chanson, ça fonctionne.
Non, mais... Ouais, puis c'est vrai que, par encore une fois, un style graphique, ça, pour le coup, c'est bien parce que tous les jeux qu'on voit là, qu'on a vus dans ce showcase, esthétiquement, visuellement, c'était des propositions très, très différentes les unes des autres. Et on le voit encore avec ce jeu-là, quoi.
Et on a un autre jeu avec une chanson qui, là, pour le coup, est un peu plus facile à comprendre, mais qui est plutôt original. C'est « All You Need Is Help ». Et voilà la chanson, c'est Pixel Junk qui est au développement. Voilà la chanson.
Mais alors, je sais pas si... Enfin, moi, j'entends rien, là. Je sais pas si...
Ah, tu entends rien ? Zut ! Est-ce que... Non, alors, pardon. Si voilà, maintenant, vous entendez. Ah, je vais vous la remettre. Hop, voilà. On va recommencer. J'étais en train de bouger la tête tout seul, comme un idiot.
C'est n'importe quoi. C'est vraiment Tetris, rencontre Katamari Damacy, j'ai l'impression.
Exactement. En fait, le principe du jeu, c'est... le principe du jeu... Est-ce que je laisse un peu la musique, peut-être ? C'est qu'on contrôle chacun une pièce de Tetris et il faut former sur l'aire de jeu la forme qui est formable avec toutes ces pièces quand elles sont bien disposées. Et on avance très, très doucement. On est une sorte de peluche, quoi. Et on peut customiser le look de la peluche parce qu'on a des yeux et un chapeau et ce genre de choses. Et on avance tout doucement, c'est tout mignon. Et vraiment, quand je vous disais, il y a aussi du mignon et du wholesome, entre Time and Galaxy et All You Need Is Help, on est pile dedans, quoi. C'est exactement le genre de truc qui, si on avait eu que ça encore, eh ben j'aurais un petit peu râlé sur le trailer. Mais il y en a et ça passe très bien. C'était plutôt rigolo. Voilà. J'espère que vous n'avez pas... Ah non, alors vous n'avez pas entendu la chanson de Times and Galaxy non plus ?
Bah moi non, en tout cas, mais...
Ah non, mais alors elle n'y était pas. Attends, je vais la remettre parce qu'il faut quand même que vous entendiez.
Ouais, il y a quand même des trucs sympas à ce niveau-là.
Solar System to explore.
C'est vraiment la chanson qui explique littéralement le jeu, quoi. J'ai l'impression, c'est pas
vrai. Ouais. Mais tu sais, t'es. Bon, voilà, c'est rigolo. Ouais, le truc, c'est que comment tu sors du lot dans des trucs comme ça, ce jeu n'a rien de spécial dans sa présentation visuelle. Par contre, avec la musique, bah, tu le retiens. Et c'est pour ça que je l'ai retenu, en tout cas, pour ma part.
Mmh. Ouais.
Voilà pour cet ID at Xbox Showcase. Donc, plutôt réussi, je trouve. Passons au deuxième sujet de cet épisode, la BlizzCon.
Des petits indés aussi.
Hein, pardon ? Mais oui, voilà, encore.
J'ai dit des petits indés aussi.
La BlizzCon n'aura pas lieu cette année, alors qu'elle était revenue triomphalement l'année dernière, après des années de Covid, bien sûr, et puis aussi de gros scandales chez Blizzard. On espérait que c'était reparti pour de bon. Et là, non, ils ont annoncé la larme dans les yeux que la BlizzCon n'aurait pas lieu cette année.
Est-ce que avant qu'on en parle, est-ce qu'ils avaient quand même annoncé qu'il y en aurait une au tout début, ils l'ont annulé ou ils en avaient pas du tout parlé jusqu'à présent ?
Je sais pas s'ils ont dit spécifiquement elle aura lieu et on arrive telle date, tu vois. Mais par contre, c'était entendu que je oui, me demande s'ils n'ont pas dit un truc genre on se revoit l'année prochaine, tu vois, à la fin.
Genre voilà, l'année dernière, à la conclusion, sans doute, au showcase de fin, ils ont dû dire see you next year. Et puis,
c'est ça.
Voilà.
C'est ça. Je ne sais pas s'ils l'ont effectivement fait, mais c'était entendu, quoi. Et du coup, alors, on peut se demander pourquoi ils ont décidé d'annuler. Bien sûr, il y a Microsoft qui est le nouveau propriétaire de Blizzard. Peut-être que ça joue. Je suis sûr qu'il y a eu pas mal de spéculations. Moi, j'en sais pas plus que vous, mais j'ai travaillé pour Blizzard. Vous vous en souvenez, pendant quelques années, ça remonte hein, maintenant, mais tout de même. Donc, je pourrais me risquer à quelques spéculations moi aussi. La première idée, c'est bien sûr, ça ne fait pas d'argent la BlizzCon, ça coûte beaucoup d'argent, et donc, dans ce contexte en plus, on ne va pas dépenser plus d'argent. En fait, je ne crois pas. De ce que je sais, tout ce que fait Blizzard, enfin tout ce que faisait Blizzard, ramenait de l'argent. Même les trucs annexes, genre je me souviens que les arènes, les royaumes d'arènes sur World of Warcraft, qui étaient un truc spécifique sur lequel on pouvait aller en payant, ça faisait de l'argent. Tout fait de l'argent chez Blizzard. C'est un petit peu comme Nintendo, tu vois. Ils ne vont pas te vendre un truc si ça ne fait pas d'argent. Et la BlizzCon, surtout vu le prix des billets, ça faisait de l'argent. Donc, je ne pense pas que ça soit ça. On a aussi pensé, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont rien à annoncer ? C'est possible. Et c'est vrai qu'ils n'ont peut-être rien à annoncer, donc on ne fait pas une BlizzCon pour rien. Mais en même temps, s'ils avaient voulu, il y a quand même les 30 ans de Warcraft, les 20 ans de World of Warcraft. Il y a une nouvelle extension pour Diablo. C'était possible de centrer le truc au moins sur Warcraft. Et puis, pardon, je suis malade, l'ActiFed ne fait plus effet. C'est un moyen de galvaniser la communauté, quoi. À un moment, ils en ont besoin, Blizzard. Et je pense que tout le monde, après l'année dernière, était prêt à y retourner. Moi-même, je me disais, peut-être que j'irai en 2024, machin. Bon, là, non. Peut-être que j'irai au Worlds de League of Legends, du coup. Hein, ça me libère du moment. J'hésitais entre les deux. Et peut-être que, du coup, comme c'est plus près... Bref. En l'occurrence, ça aurait été bon pour la communauté, je crois, de la faire. Et avec le thème 30 ans de Warcraft, 20 ans de World of Warcraft, c'était tout à fait possible. Donc, je ne pense pas que ça soit qu'il n'ait rien à annoncer. Et je ne pense pas que ça soit dû à la nouvelle direction de Microsoft. C'est possible. Disons que ils ont plus d'occasions de faire de parler de jeux Blizzard chez Microsoft. Ils peuvent les mettre en avant sans avoir besoin de la BlizzCon, mais j'ai pas l'impression que ça soit ça la raison. Surtout que franchement, ils ont des jeux à présenter hein, chez Microsoft. Ils ont à peu près 4000 studios, donc ils peuvent pas parler de tout le temps. Pour moi, le plus crédible, c'est une question de temps en fait, de temps de développement. Parce que la BlizzCon, c'est un projet énorme qui engage toute la société. C'est presque comme si tu ajoutes un développement de jeu sur l'année en plus de tout ce qu'ils font déjà. Tout s'arrête. Enfin, c'est pas que tout s'arrête. Bon, déjà, pendant une ou deux semaines, tout s'arrête pour être à la BlizzCon. Mais en plus de ça, le développement, les développeurs passent énormément de temps sur la BlizzCon. Donc, je pense que ça, c'est le plus crédible pour l'annulation. Je sais pas complètement. Et puis il y a des gens qui sont faits, ils ont moins d'effectifs parce qu'ils ont viré des gens, ça joue peut-être aussi. Mais moi je pense que c'est plutôt ça. Ils se sont dit, bon, ça vaut pas le coup, bossons sur nos jeux, on a du boulot, c'est peut-être pas la peine de se plomber avec une BlizzCon en plus, on est tous crevés. Faisons les choses les plus importantes, c'est-à-dire le développement de jeux. Je pense. Après.
Effectivement, t'as cité le fait qu'il y a eu des licenciements. Est-ce que le fait aussi que leur jeu de survie a été annulé n'a pas une influence ? Parce que on peut imaginer que ce jeu-là allait être central à une BlizzCon comme ça, puisque ça aurait été un nouveau jeu, un vrai nouveau jeu, probablement peut-être une nouvelle licence et surtout un nouveau style de jeu. Ça aurait été quelque chose d'extrêmement important. Du coup, sans cette annonce-là, on se retrouve avec effectivement une BlizzCon qui, en termes d'annonce, aurait été un peu, il n'y aurait pas eu vraiment... Enfin, est-ce qu'il y aurait eu des vraies annonces, à part des trucs qui ont déjà été annoncés, qui auraient été montrés pour la première fois comme le...
Non, mais tu peux le gérer. Tu peux le gérer, tu sais. On me demande dans la chatroom, est-ce qu'il y a déjà eu des BlizzCon sans annonce ? Oui, et tu peux le dire avant. Tu dis, écoutez, on n'a pas d'annonce. C'est vraiment juste pour célébrer la communauté de World of Warcraft. On a déjà, l'année dernière, fait des annonces de 3 extensions de World of Warcraft. Donc, c'est vraiment la fête pour vous, pour la communauté. Au contraire, ça aurait été un petit peu faire preuve de, c'était du goodwill building.
Ouais, je suis d'accord.
ils auraient dit on va rien annoncer, vous attendez à rien, sauf que on va faire des trucs pour être ensemble, parce que les 30 ans de Warcraft et les 20 ans de World of Warcraft, c'est là que Blizzard est vraiment devenue la société qu'elle a été, comme on la connaît. Parce que oui, c'était une super boîte avant, mais à partir de World of Warcraft, ils ont conquis le monde. Avant, ce n'était pas le cas, c'était une beaucoup plus petite boîte. Donc, je pense que ça aurait suffi et ils auraient eu énormément de gens. Venez retrouver votre guilde, venez retrouver vos amis, passez du temps ensemble et on va faire la fête. Ça aurait super bien marché, je pense.
Ouais. Ouais, après, effectivement, en plus, c'est peut-être à ce moment-là que, suite au rachat de Microsoft, ça aurait été bien de faire un événement communautaire pour un peu rassurer la communauté, les fans, en disant on reste Blizzard, on est tel qu'on est et tout ça. Regardez, c'est pas parce qu'on est maintenant fait partie de l'écurie Microsoft que ça change quoi que ce soit. Bon, ils le font pas pour plein de raisons que tu as évoquées et qui sont probablement vraies en partie, parce que c'est vrai que c'est énormément de boulot. J'imagine aussi. C'est que des spéculations, mais que ça a été sur une décision très longue à prendre, très compliquée. Tu vois, il y a peut-être eu des réunions avec plein de gens, des gens sur les MS, etc., en disant voilà, ils avaient un fichier Excel devant les yeux, voilà ce que ça va nous coûter, voilà le temps que ça va nous prendre, qu'est-ce qu'on fait. Voilà, et ils sont ressortis de la réunion en pesant sans doute en faisant la tronche, quoi.
Moi, je suis convaincu que, vu la dynamique qu'ils ont avec la BlizzCon de l'année dernière, peut-être que c'est une fausse impression que j'ai, mais dans la communauté, tout le monde était prêt à repartir, tu vois. Tout le monde était prêt à dire « Ok, la BlizzCon est revenue, on va y en avoir tous les ans et on va y aller. » Tu sais, les fidèles qui faisaient la popularité de la BlizzCon tous les ans depuis des années, ils étaient prêts à y retourner, tu vois. C'était genre « Ok, allez, le cauchemar est terminé un petit peu. » Et avec... parce que, faut pas se tromper, pendant quelques années, la BlizzCon, c'était World of Warcraft. Et c'était les guildes de World of Warcraft qui se retrouvaient. Oui, si t'annonces rien, on me dit aussi dans la chatroom, ça vend moins. Je ne suis pas sûr, parce que si tu l'angles bien sur rendez-vous communautaire pour World of Warcraft, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui y vont. Et aux États-Unis, hein, les gens qui viennent de l'étranger, ça leur coûte beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus rare. Mais aux US, c'est l'occasion de se retrouver avec les guildes, etc. Je pense que c'est faisable. Mais peut-être que ça se trouve, ils se sont dit non, si on n'annonce rien, ça ne vaut pas le coup, c'est possible.
Ouais, après, pour avoir fait une... Toi, t'en as fait plein, mais pour avoir fait une BlizzCon, moi, il y a longtemps maintenant, en 2011, je crois, c'est vrai que ça a été... Enfin, pour moi, c'est... Alors que, encore une fois, je suis pas un immense fan des licences, enfin, à part certains jeux, mais je suis pas un énorme spécialiste de Blizzard. Ça a été un de mes events les plus agréables à couvrir, quoi, parce que c'était tellement dingue de voir tous ces serveurs qui, peut-être, s'est étiolé depuis 10 ans, tu vois, avec tout ce qui s'est passé. Je sais pas, j'imagine que les fans de Blizzard, il y a 10 ans, sont peut-être plus forcément les mêmes qu'aujourd'hui. J'en sais rien, mais c'est important. Enfin, ça fait partie de ces rares studios, ces rares boîtes qui peuvent encore fédérer des trucs autour de... Enfin, fédérer un événement autour de leur nom. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et c'est vrai que ce serait dommage que ça se perde, en fait, tout simplement. Quoi.
C'est ça. Et tu le dis, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne le perçoivent pas bien. La BlizzCon, c'est unique. C'est vraiment... Enfin, j'imagine que c'est dans le ton des trucs du genre, je sais pas, les conférences de Minecraft ou peut-être même TweetCon à la grande époque. Mais c'est vraiment... très très particulier de retrouver plein de gens. Et encore, bon, aujourd'hui, le loisir du jeu vidéo est beaucoup plus accepté, on se retrouve par différents biais, mais il y a même 10 ans ou 15 ans, la BlizzCon, c'était un endroit où tu retrouvais des gens qui étaient comme toi, qui comprenaient les mots étranges que tu employais quand tu parlais de World of Warcraft. C'est nulle part ailleurs. Et c'est pour ça que je dis, avec l'année dernière, il y a fait plein de gens qui sont allés et plein de gens qui n'y sont pas allés et qui se disaient justement « Ok, ça y est, j'ai envie de revivre cette excitation et de retrouver mes potes et tout ça, bah, j'irai peut-être l'année prochaine. » Là, ça fait un peu faux départ, quoi. Enfin bon, bref. On verra.
Ouais, en tout cas, ouais, on verra ce que ça donnera dans les années à venir, parce qu'effectivement, est-ce que Microsoft aussi, même si je pense pas que ce soit le cas, est-ce que Microsoft veut pas se garder les cartouches Blizzard pour ses grosses conférences? C'est pas déconnant non plus. Effectivement, ouais. Comme tu disais, ils ont une tonne de jeux annoncés, j'espère en tout cas pour eux, cette année. Donc peut-être que ça aurait été pas mal de se garder les annonces Blizzard pour un autre événement. Mais bon, c'est vrai que c'est malgré tout, je pense que le fait qu'ils fassent partie des curies Microsoft a forcément à voir avec ça. Même un tout petit peu, il y a forcément un truc avec ça, quoi.
Et bien justement, parlons un petit peu de Microsoft, puisque notre troisième gros sujet, c'est l'annonce du Xbox Games Showcase de l'E3. Alors, je continue à l'appeler l'E3, c'est plus facile.
J'aime bien cette nostalgie d'un truc qui n'existe plus.
C'est... Ouais, c'est ça, ça va durer quelques années, je pense. Au bout d'un moment, je finirai quand on aura trouvé un nom. Mais oui, donc de l'E3 de la période de juin a été annoncé pour le 9 juin. C'est l'occasion, du coup, de spéculer un petit peu, c'est pour le fun, pour s'amuser, de comment on sent cette E3, qu'est-ce qui va se passer. Cette conférence donc aura lieu le 9 juin et elle sera suivie par un redacted direct, genre on ne peut pas vous dire de quel jeu il s'agit, mais en fait, si, on sait, puisqu'on peut facilement voir à travers les caractères qui ont été noircis au feutre, et c'est évidemment Call of Duty qui sera mis en avant après le Xbox Game Showcase du 9 juin. Et du coup, bah, si on spécule un petit peu, Microsoft, je pense qu'ils vont... Enfin, le truc, c'est que j'ai du mal même à me souvenir des gros jeux qui risquent d'arriver. Il y a des trucs genre, bon, il y a Fable, il y a Senua's Sacrifice... Non, Senua's Saga. Non,
Hellblade, il sort à la fin du mois, Hellblade. Hein.
Il sera déjà sorti, du coup. Bon, donc,
il sera déjà sorti, ouais.
Donc il n'y aura pas Hellblade. Il y a le truc dans l'Amérique, genre Cajun, comment ça s'appelle ce jeu en stop motion? Ah, je me souviens plus qui avait été présenté.
Merde, oui, oui, je sais plus.
Je vais parler. Bon, mais tu vois, je me souviens même pas vraiment du nom. C'est pas un gros système seller.
Bien sûr. Il y a le nouveau Arkane aussi, quand même, le Blade de Arkane, qui est quand même un jeu important, je pense.
Oui, mais celui-là, il vient d'être annoncé. À mon avis, ils n'auront pas énormément à montrer. Alors, hein. Il y aura plus sur Indiana Jones ou ce genre de truc.
Oui, Indiana Jones, évidemment. Je pense qu'en vrai, la star du jeu, la star du truc, à côté Bethesda, en tout cas, ce sera évidemment Indiana Jones. Je pense que malgré tout, le Blade qui a quand même été annoncé l'année dernière, hein, donc je pense qu'ils seront en mesure de te montrer au moins du gameplay, quoi. Enfin, s'il n'y a pas du gameplay du Arkane, ce serait quand même un petit peu dommage, quoi.
Ouais. Et puis à vrai dire, c'est vrai que, ouais. Même s'il n'est pas complètement prêt, je pense que pour meubler, s'ils n'ont pas d'autre chose, ils vont en montrer juste pour...
Ouais, après, si, évidemment, un miracle pourrait faire qu'on aurait quelque chose autour de Elder Scrolls 6. J'y crois peu, Ouais, alors, ceci étant dit, Todd Howard, il y a peut-être la semaine dernière ou il y a quelques jours, a quand même dit qu'il aimerait bien faire en sorte que d'accélérer le processus de développement de ces jeux, qu'on ait plus souvent que Bethesda ait plus de jeux à montrer rapidement, etc. Mmh. Est-ce que c'est un teasing pour le dire, vous verrez des choses, alors peut-être pas TES 6 hein, ou Fallout 5, hein, calmez-vous, quoi, mais peut-être qu'on verra un peu plus de Bethesda, de jeux Bethesda dans cette conf, j'en sais rien. Et après, moi, il y en a un qui me branche bien en disant peut-être qu'on en verra plus, c'est le Kojima, c'est le Audi de Kojima.
Ouais,
le
jeu peut-être.
Le jeu qui fait en collab avec Microsoft, donc, dont on n'a strictement rien vu l'année dernière, à part un des visages qui crie en gros plan, quoi. C'est Kojima, quoi. Mais je suis quand même curieux pour le coup de voir ça. Et puis, bah, Fable, évidemment, enfin, à un moment donné, ça fait, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on entend parler de ce jeu, et peut-être pas 10 ans, mais au moins.
À un moment, il va filer.
Il va falloir le montrer, quoi.
Il y a quelques petits trucs, mais enfin, moi, ça me paraît un petit peu faiblard quand même, ce qu'ils ont. Et du coup, peut-être, oui, qu'ils veulent se garder des trucs de Blizzard, mais quoi ? Remontrer World of Warcraft, The War Within, qui sort à la fin de l'année, montrer l'extension Diablo ? Oui, sans doute, mais bon, peut-être. Après, mais bon, c'est...
Par contre, on sous-estime juste le Call of Duty qui potentiellement peut être Black Ops 4, enfin Black Ops dans 5 ou 6, je sais plus, bref, un nouveau Black Ops, 5, qui pour le coup reste quand même une licence populaire, quoi qu'on en dise, tu vois. Donc, bon, voilà.
Évidemment, oui. Du coup, on a ça du côté de Microsoft. Si on regarde du côté des autres constructeurs de consoles, oui, entre parenthèses, tu parlais de Todd Howard, ils ont annoncé une update pour Starfield avec la carte enfin améliorée. Il y a l'extension qui arrive cet automne. Non, mais même il y a une update en mai qui ajoute plein de trucs, enfin, dont la carte qui fonctionne bien.
Ah bah j'ai peut-être relancé Starfield alors à ce moment-là, c'est bon.
Bah voilà, c'est ça. Mais oui, à part ça, pour cette E3, on va avoir PlayStation qui est complètement en mode on est au ralenti. Genre, ils vont pas avoir de nouvelles IP, de nouveaux jeux. On a l'impression qu'ils vont même pas avoir de nouveaux jeux à annoncer. Limite, ils vont pas faire de présentation, ça me surprendrait pas. Ils n'ont pas vraiment besoin parce que Microsoft a peu de choses en face et ils sont en train de gagner la guerre de cette génération de toute façon. En même temps, ils ont, on le sait, la PlayStation 5 Pro qui va arriver cet automne, a priori. Hein. Donc, il y aurait peut-être la nécessité de mettre des choses pour motiver les achats.
Ce serait bien de montrer un jeu qui tire parti, entre guillemets, qui te montre un peu la puissance de la PS5 Pro, regarder le ray tracing, regarder la 4K 60 FPS, etc. Tu vois.
Mais ça peut...
Je sais pas.
Ça peut se faire en juillet ou en septembre, tu vois, c'est pas forcément ouais. à l'E3. Nintendo, ils sont en train d'attendre la sortie de la Switch 2 en ne sortant plus rien d'ici là. Et la Switch 2, on sait qu'elle n'arrivera pas avant 2025. Donc, bon, a priori, il n'y aura rien. Du coup, en fait, ça laisse le champ libre à tous les autres. C'est-à-dire que les éditeurs tiers, les petits indés... alors, Ubisoft, moi, j'aimerais bien voir du Persona 6. Enfin, je suis sûr qu'on aura du GTA 6. Ça, c'est à un moment, on va le voir quelque part. Persona 6, ça serait cool, mais ils sont sur Metaphori Fantasio chez Atlus. On ne va pas parler de la suite de Hollow Knight pour ne pas la jinxer. Mais tu vois, il y a plein de trucs qui pourraient prendre la place, et puis surtout des surprises, quoi, des trucs dont on n'a pas entendu parler chez des petits indés, chez des gros développeurs, parce qu'il risque d'y avoir... On est comme, en fait, c'était quand ? C'était 2021, où tout avait été retardé, et du coup, enfin, tous les gros trucs avaient été retardés, et du coup, on a eu énormément de petits indés qui ont pu se faire leur place, ou de moyens indés. Donc, c'est peut-être ça qui va se passer.
Un peu comme l'année dernière, et peut-être même encore plus, je pense que les surprises viendront effectivement des guérillas collectives, des PC Gaming Show, des machins directs, enfin, tu vois, des trucs un peu plus indés. Il y a Ubisoft quand même.
Ou même chez Xbox.
Ubisoft, hein. quand même un
oui, c'est vrai qu'il y a Ubisoft. Oui. Mais même chez Ubisoft, ils peuvent alimenter le Game Pass. Et ils peuvent, tu vois, mettre des gros trucs chez eux pour aller dans le Game Pass, quoi.
Oui, complètement. Oui, tu l'as dit, mais on peut le redire. Faut pas oublier qu'il y a 3-4 ans, il y avait eu l'annonce de Silksong dans le Game Pass, Hollow Knight Silksong, ça fait partie de ces surprises qu'on peut avoir. Non, mais oui, je suis désolé de citer Voldemort, mais à un moment donné, bon, je suis baffe. Donc on pourrait le Shadow Drop de Silksong dans le Game Pass. Allez, dès le 7 juin, on y croit. Marquez mes mots, comme on dit en français. C'est bon, quoi. J'y suis. Donc voilà. Mais effectivement, l'année dernière, on avait déjà dit ça, mais cette année, Microsoft, il faut qu'ils se réveillent. Sortez, je sais pas, à un moment donné, ils ont racheté 50 studios, ils ont Obsidian, ils en ont plein, ils ont ceux qui ont fait Wasteland, là, je ne sais plus comment ils s'appellent, ils ont Tim Schafer, enfin bref, ils en ont plein des studios, ils ont plein de talents, ils ont une tonne de gens hyper talentueux.
Phil has hurt me before. I can't give him my heart again.
On en reparle. Je sais pas qu'on sera à rendez-vous jeu après le showcase Xbox, mais on en reparle. Voilà, on en reparle mi-juin ensemble si tu veux. On verra qui a raison.
Mais j'espère. Hein, moi, je ne demande rien d'autre que des productions de ces.
Évidemment.
Comme je disais, 4800 studios qu'ils ont rachetés, quoi. Oui, il serait temps. On est d'accord. Mais le problème que je vois, c'est que je pense qu'ils ont, de la même manière que Sony a pas besoin de se presser pour vendre des trucs, et là ils attendent, je pense qu'on va avoir deux ou trois gros jeux first party pour les deux ou trois dernières années de vie de la console PlayStation 5, et ils ont pas besoin de se presser parce qu'ils ont gagné la guerre sur cette génération encore. Même manière, je pense que Xbox se dit, de toute façon, on a perdu, quoi. Donc, attendons la prochaine et faisons de gros jeux pour la prochaine. On fait le minimum syndical, là, pour cette génération, parce qu'il y a quand même des gens qui ont acheté des Xbox Series. Et puis, on garde les grosses cartouches pour la prochaine. J'ai l'impression que c'est comme ça.
La prochaine, c'est pas tout de suite quand même. Hein, donc, ils peuvent pas se contenter de laisser tomber. Enfin, tu vois,
laisser tomber.
On sait qu'ils ont beaucoup de jeux en développement. Enfin, tu vois, Fable, par exemple, j'ai pas mal sorti Fable sur Xbox Series X2, tu vois.
Non, donc, ceux qui ont été annoncés, je pense qu'ils sortiront là dans les 2-3 prochaines années.
Oui.
Mais moi, même Fable, c'est cool, Fable. Mais je ne suis pas certain que les gens qui ne sont pas déjà fans de Fable vont se précipiter pour acheter une Xbox s'ils ne l'ont pas déjà achetée pour Fable. Tu vois, ce n'est pas ça qui peut-être qu'il y aura des autres trucs, mais...
Ouais, et puis surtout, Fable a probablement besoin d'un bon coup de marketing pour justement attirer un public beaucoup plus large. S'ils arrivent à le marketer comme le nouveau RPG AAA monde ouvert, je sais pas quoi, et pas juste un héritier d'un RPG rigolo, avec beaucoup d'humour des années 2000, évidemment qu'il va falloir faire énormément de marketing pour vendre Fable à un public plus large que le public initial.
Ouais.
Mais tu vois, pareil, Gears of War, est-ce que c'est une licence qui est morte ? Est-ce que c'est une licence qui est en pause ?
Voilà. Non, mais Gears, ils vont en sortir d'autres, c'est évident.
Est-ce qu'un Gears 6 sur Xbox Series X, tu vois ? Halo, c'est pareil. Halo Reach a été quand même une déception globale, que ce soit en termes de
Infinite, tu veux dire ?
Infinite, pardon, oui. A été quand même une déception globale. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire d'Halo ? Tu vois, c'est quand même des grosses licences. Ils ont beaucoup de trucs qui sont super, mais il faut savoir comment faire, quoi.
Écoute, soyons ouverts à une bonne surprise. Quand on dit dans la chatroom... ils ont leur politique multiplateforme, donc il n'y a pas de raison qu'ils ralentissent trop, effectivement. Peut-être que je suis un petit peu trop focalisé sur la console et le parc installé de consoles. C'est possible. Et puis, c'est sûr qu'il y a Satya Nadella au-dessus qui est en train de dire « Non, mais les gars, il faut faire de l'argent quand même. On ne va pas, pendant 4 ans, jusqu'à la prochaine génération, juste attendre. » Donc, peut-être. Bon. En tout cas, voilà notre mini-analyse preview de l'E3 2024. C'est dans un mois, hein, ça commencera. Le bah, Summer déjà, Game ouais. Fest, c'est le 7, je crois, non ouais. Ou le 10
ouais, c'est ça, le 7. Si, c'est le 7. 7. C'est le 7 juin et le 9, donc c'est la conférence MS. Donc oui, ça va être, pardon,
c'est
ça,
bientôt,
va être,
c'est
ça va être sympa, comme d'hab, c'est une période sympa, moi j'aime bien.
Le 7, c'est pas la sortie. Ah non, c'est le 4, la sortie de The Final Shape de Destiny. Je crois que c'est le 4, en fait.
Tu seras mieux que moi ce genre d'information.
ouais, et puis il y aura peut-être Hades 2, dont ils ont fait le closed test, là, le technical test. Peut-être que sortir pendant une conférence.
Un lancement de early access sur Xbox Game Pass, par exemple.
Alors, ça serait pas mal, ouais. Sur le Xbox Game Pass, inclus dans le Xbox Game Pass, ça serait gros l'early access, c'est sûr. Après, mais tu vois, c'est ce genre de choses que je peux voir. Pas...
Le chèque à Supermassif doit être énorme parce que je pense qu'ils n'ont pas besoin d'un Game Pass, tu vois.
Ah bah non, c'est sûr.
Ils veulent vendre.
C'est sûr, c'est sûr.
Vraiment un gros chèque. Et...
Je me demande s'ils vont être... À mon avis, le truc, c'est que pour le sortir sur le Game Pass, il faut qu'il y ait... Game Pass sur Xbox, hein, j'entends. Ça veut dire développement d'un truc qui est en early access encore sur une autre plateforme. Moi, je pense qu'ils sont très contents de rester uniquement sur PC, donc pendant l'early access en tout cas, donc pour les amener à développer en early access sur Xbox aussi, oui, il faudra un chèque conséquent, je pense. Mais ouais, ça serait un guet, quoi. Bon, écoutez, voilà pour les trois news qu'on voulait couvrir aujourd'hui, pour la semaine. On va enchaîner avec les jeux auxquels on a joué ces derniers temps, enfin surtout JK, mais avant ça... J'aimerais vous rappeler que l'émission existe grâce à vous sur Patreon. Comme je vous disais, vous pouvez rejoindre la famille Patreon monnayant une petite somme modique. C'est une famille qui est unie par les liens sacrés du soutien participatif sur patreon.com/rdvjeux. Si vous appréciez l'émission, si vous pensez qu'on a des angles intéressants sur les sujets qu'on couvre, si vous pensez que quand je dis des bêtises, c'est ça qui nous différencie des nombreux podcasts qui arriveront bientôt gérés par IA, eh bien, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeux pour soutenir l'émission. C'est pas grand-chose, hein, 1 euro, 2 euros, 3 euros, le prix d'un petit café, le prix d'un Mars, voilà. Vous prenez un Mars en moins chaque semaine et vous pouvez soutenir le rendez-vous jeu. Donc franchement, moi je pense que ça vaut le coup. Patreon.com/rdvjeux. Merci à tous et à toutes.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Et on continue avec nos jeux de la semaine. Alors, on va laisser le truc JK Core, peut-être pour la fin, comme tu l'as mis dans ta liste.
Si tu veux, oui, bah écoute, c'est ton émission.
Et on commence avec Open Roads. C'est quoi, oui, Open Roads?
Est-ce que tu vois ce que c'est? Parce que c'est un jeu, mine de rien, c'est un jeu qui a été annoncé il y a quelques temps, qui est sorti il y a un petit moment. Là, c'est plus du rattrapage, parce que c'est un jeu auquel j'ai joué il y a quasiment un mois, juste après qu'on ait ma dernière participation. Open Roads, en fait, je vais tout de suite te mettre et vous mettre peut-être dans l'ambiance, puisque c'est le nouveau jeu d'un studio qui s'appelle Open Roads Team, mais qui, avant de s'appeler Open Roads Team, s'appelait Fulbright. Fulbright, qui sont les développeurs de, évidemment, God Home et Tacoma. Donc, vous voyez tout de suite dans quel genre de jeu on va se diriger. C'est-à-dire, on est sur un truc ultra narratif, pas au peu de gameplay, exploration à la première personne dans différents environnements qui vont déclencher une histoire. Ça, ils savent faire, globalement. Et c'est marrant parce que c'est un jeu qui a été relativement mal reçu à sa sortie par la critique, pour des raisons que je trouve un petit peu... Enfin, je trouve qu'il a été injustement saqué, parce que je pense que peut-être que les gens, la critique attendait autre chose, en fait, qu'un gameplay, en tout cas en termes de gameplay, que ce qu'ils ont proposé avant, c'est-à-dire quasiment ce qu'on appelle un peu vulgairement du Walking Simulator, quoi. Donc, c'est l'exploration avant tout et du dialogue. Et
ouais, c'est ce qu'ils font en même temps. Hein, donc...
Oui, voilà, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils savent faire. Et je trouve que, encore une fois, comme les jeux précédents, c'est un jeu qui est particulièrement bien écrit, qui est particulièrement, qui te tient en haleine jusqu'au bout. Comme dans les précédents jeux, évidemment, c'est à peu près 2 heures et demie de jeu maximum. Donc, évidemment, ça se consomme quasiment d'une traite. Et là, en fait, l'histoire, je vais pitcher rapidement. Donc, on incarne une jeune adolescente qui s'appelle Tess et qui en fait est avec sa mère, et en fait, ils sont en train de déménager la maison de la grand-mère qui vient de décéder. Et à partir de là, à partir de ce truc relativement anodin, bon, évidemment, tu sens une petite ambiance un peu pesante parce que la maison est vendue, c'est une passe qui se tourne. Tess va découvrir des écrits, des lettres et des choses comme ça qui vont en fait révéler au fur et à mesure une sorte de secret de famille assez intéressant, mais même très intéressant, que j'ai trouvé que jusqu'au bout te tient en haleine, et ça va donner l'occasion d'un road trip en fait entre la mère et la fille, puisqu'elles vont aller dans 2-3 endroits différents en Amérique pour découvrir un peu, pour mettre à jour ce secret de famille par rapport notamment à ses grands-parents, etc., etc. Et c'est un jeu qui vraiment tient sa promesse. C'est on va te raconter une bonne histoire avec deux personnages super cool, très bien interprétés. C'est excellemment bien doublé et joué par deux actrices qui sont vraiment super. Et voilà. Et en fait, c'est pas beaucoup plus que ça. Mais si on accepte le fait que c'est un nouveau jeu Fulbright, donc ultra narratif, mais qui est très bien raconté avec un gameplay classique, mais qui marche bien. Et bah, moi, je trouve que c'est un super jeu en soi parce que bah voilà, c'est un jeu cool, c'est un jeu intéressant qui m'a tenu en haleine pendant 2 heures et je ne demandais pas beaucoup plus, quoi.
Moi, j'avais été assez déçu par Tacoma, alors que j'avais beaucoup aimé, enfin adoré Gone Home. Ouais, toi aussi, du coup, on est plus proche de Gone Home dans la qualité ?
J'ai préféré ce jeu-là à Tacoma. Tacoma avait pour lui un setting très original de science-fiction, etc. Mmh. Mais je trouve que ça tenait pas. Là, on est dans un truc beaucoup plus classique, beaucoup plus à la Gone Home, puisque ça parle d'histoire de famille et de choses comme ça. Et un gameplay vraiment très proche, puisqu'on va vraiment... Gone Home, t'explores une seule maison pendant tout le jeu. Là, tu vas explorer 3-4 environnements différents qui sont plus petits, mais c'est un peu le même principe. Tu vas ramasser des objets, et certains objets vont te déclencher un dialogue entre la mère et la fille. Il y a quand même des réponses, contrairement à Gone Home. Un système de réponses multiples pour un peu orienter la discussion avec la mère. Ça ne va pas changer fondamentalement l'intrigue à la fin du jeu, mais ça va plus donner une sorte de couleur de couleur de la discussion. Est-ce que tu peux être un peu renfrogné après, enfin, voilà. Parce que forcément, les relations entre la mère et la fille ne sont pas toujours au beau fixe. Et c'est aussi un sujet, d'ailleurs, un thème très intéressant à aborder dans le jeu. Donc, il y a un peu plus de gameplay quand même que dans un Gone Home, puisque tu as ça, tu as vraiment un système de recherche qui est un tout petit peu plus poussé, même si ça reste assez simple, quoi. Donc, et clairement, moi, je préfère ce jeu-là à Tacoma, c'est sûr.
D'accord. Bon, écoute, donc peut-être.
Voilà, c'est chouette. Il faut savoir où on met les pieds. C'est un jeu ultra narratif. Ça dure 2 heures, mais voilà, si vous voulez une belle histoire très très à la fois touchante, bien interprétée et encore une fois qui, je trouve, te tient en haleine jusqu'au bout, bah c'est un chouette jeu.
Open Roads, et il est dans le Game Pass accessoirement. Donc
ah d'accord, je savais même pas. Tiens, bah c'est encore. Voilà.
En tout cas, c'est ce qu'ils disent dans le trailer. Hein, donc.
Ok. Effectivement. Voilà.
Disponible sur PlayStation, Switch, Steam, Xbox, donc oui, un petit peu partout.
Un peu partout.
Tu as également joué à un jeu dont on a parlé désormais 2 fois déjà, donc c'est la troisième, c'est Mini Shoot Adventures. C'était Thomas qui nous en a parlé la première fois. C'est vraiment un jeu... je vais te laisser en parler, mais je n'en ai entendu que du bien. J'ai rarement vu... parce que c'est pas comme les jeux un petit peu viraux qui sont sortis ces derniers mois ou ces dernières années, où tout à coup tout le monde se met à jouer au même jeu à un moment qui sort de nulle part. Là, c'est un jeu solo qui est original mais adorable. C'est la manière dont je peux le mieux le décrire, mais je peux te laisser peut-être dire de quoi il s'agit, même si on en a déjà parlé.
Je ne vais pas en parler 3 heures parce qu'effectivement, on en a déjà parlé pas mal la semaine dernière. C'est vraiment le mélange, aussi improbable que réussi, entre un twin stick shooter shoot 'em up bullet hell avec un Zelda et Zelda type Zelda 3. Quoi. C'est la structure d'un Zelda à l'ancienne, un Zelda en 2D, notamment encore une fois le troisième épisode. On va explorer un monde, un overworld, ce qu'on appelle un overworld, qui va donner accès à des donjons. Il faut retrouver différents morceaux pour. pour accéder au boss final. Enfin bon, voilà, la structure, elle est vraiment extrêmement classique, mais c'est un jeu qui est d'une, comment dire, qui est d'une précision. En fait, moi, le mot qui me vient à l'esprit quand je pense à ce jeu et la façon dont, enfin, ce qui m'apporte, c'est que c'est un jeu qui est extrêmement satisfaisant. Satisfaisant sur tous les points, parce que c'est, j'ai rarement vu un jeu aussi agréable à prendre en main en termes de, voilà, juste le feeling du vaisseau, les combats. C'est vraiment, c'est hyper bien équilibré. Tu sens qu'il y a eu du playtest avant. Enfin, la prise en main, elle est juste impeccable, quoi. Et la progression, elle est, encore une fois, c'est classique, tu vois, c'est vraiment classique en termes de déroulé, mais c'est ultra bien fait. Donc moi, j'ai fini le jeu, c'est un jeu qui se fait entre 10 et 15 heures, on va dire, selon ton niveau de complétion, parce qu'il y a beaucoup de secrets. Enfin, moi, j'ai fini le jeu, je dois être à 70% du jeu, tu vois. J'ai encore plein de trucs que je n'ai pas découvert et tout ça. Sachant qu'il y a des challenges à la fin qui peuvent être extrêmement durs. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est un jeu qui peut être extrêmement hardcore si on veut qu'il soit hardcore, mais c'est aussi un jeu qui peut être extrêmement accessible si on veut qu'il soit accessible. Il y a une tonne d'options d'accessibilité, notamment la vis automatique, il y a même, tu peux régler la difficulté, tu peux ralentir la vitesse du jeu, tu peux même choisir carrément d'être invincible, c'est carrément une option, tu vois, si vraiment tu galères ou si tu veux laisser un enfant y jouer, t'as raison, sans prise de tête. Et ça, je trouve ça hyper... hyper, hyper cool de la part des développeurs d'avoir fait ça, parce que y a vraiment, c'est un jeu qui est vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire que vraiment, si tu veux du challenge, tu peux avoir du challenge. Il y a vraiment des moments très difficiles, notamment vers la fin, des boss qui sont assez chauds. Et en même temps, si tu n'as pas envie, bah, en temps réel, à la volée, tu t'actives n'importe quelle aide. Et c'est vraiment, pour moi, c'est un exemple. En fait, je trouve que tous les jeux, en tout cas ce site, devraient avoir ces options-là, parce que ça permet un maximum de gens d'être touchés par le jeu, quoi. Donc voilà, c'est un jeu qui coûte 15 balles. Il sera très, très certainement dans mon top 5, on verra, hein, mais qui sera très certainement dans mon top 5 de l'année.
C'est ce que je disais la semaine dernière aussi. Ouais.
T'as continué un peu à y jouer, toi ?
Ouais, un petit peu, je suis pas du tout au bout, mais ça continue à être hyper, c'est ce que tu dis, satisfaisant. C'est agréable d'y jouer, les contrôles, enfin, c'est les meilleurs jeux, en fait, ont cette qualité d'être juste agréable à prendre en main. Quand tu manipules le personnage ou le vaisseau ou ce que c'est à l'écran avec ta manette, l'interface entre tes mains et ce qui se passe à l'écran, c'est pleasurable, on dit en anglais. C'est plaisant, c'est clair. Tu vois, ça t'apporte du plaisir. Et vraiment, il n'y a pas un instant quand tu contrôles ce vaisseau dans ce jeu où tu ne prends pas de plaisir. Et même les parties... Alors, j'ai pas fini le jeu, mais je trouve que oui, il y a des options d'accessibilité, mais c'est pas impossible, quoi, pour un joueur assidu comme on l'est tous. C'est pas du tout Dark Soulsien, quoi. Pas du tout,
Non, pas du tout.
Enfin, les boss, tu vas peut-être mourir une ou deux fois le temps de comprendre un petit peu les patterns, mais c'est même pas impossible du tout que tu le passes du premier coup, le boss. Et pourtant, ça fait boulettelle, quoi. Faut juste éviter les boulettes. Ouais, ouais.
En fait, voilà, c'est un jeu qui peut être très impressionnant à voir à l'écran. Et en fait, une fois la manette en main, tu t'en sors plutôt bien. En fait, c'est ça qui est intéressant. Après, t'as quand même des boss. Moi, je m'y suis surpris 5-6 fois quand même. Ça a été vraiment un peu plus costaud.
Oui, mais je veux dire, c'est pas le genre de truc où tu te dis boulettelle, tu vas devoir recommencer 30 fois, 50 fois, c'est un truc qu'elle a... Pas du tout, c'est pas ça. C'est comme un jeu normal.
C'est hyper important de dire ça. Ouais, c'est hyper important de dire ça.
Parce que ça fait peur.
Typiquement, dans un Souls, il y a vraiment des moments où t'es désespéré parce que tu te dis, je vais jamais y arriver, c'est impossible. Genre, comment tu fais ? Dans un jeu comme ça, c'est pas le cas. Même si tu vas mourir 3, 4, 5 fois... comment dire, à chaque fois que tu vas mourir, tu dis bon, là j'étais presque, j'ai un peu progressé, j'y retourne. T'as toujours cette envie de recommencer, qui est vraiment chouette. Ils disent dans le chat que c'est vrai que le dernier tiers, ça commence à être un peu répétitif parce qu'il y a un manque de variété dans les ennemis, au niveau des armes peut-être. C'est vrai, mais c'est un jeu qui est fait par deux. Alors c'est pas une raison, mais c'est un jeu qui est fait par deux personnes et c'est assez hallucinant ce qu'ils ont réussi à faire. Et je trouve quand même que malgré tout au long du jeu, t'as vraiment une sensation de montée en puissance de ton vaisseau qui gagne de l'expérience et où tu peux débloquer plein de trucs en plus, qui vraiment jusqu'à la fin du jeu t'apporte beaucoup de plaisir. Et enfin, moi, j'ai été vraiment impressionné par ce jeu, quoi.
Donc, si vous n'avez pas encore été convaincu, JK ajoute sa voix. Mini Shoot Adventures, c'est de la bonne cam.
Exactement.
Et le dernier jeu dont on va parler, c'est donc un jeu qui est très JK core, comme je disais. Ah ouais. C'est Phantom Fury. Alors, c'est vraiment Phantom le jeu Fury. Pour toi, quoi.
Allez. Est-ce que vous voulez du boomer shooter de vieux gamer là, ce qu'on appelle boomer shooter. Non, c'est en fait Phantom Fury. Bon, alors j'ai pas fini le jeu encore. Je suis peut-être au trois quarts là. Je suis vraiment pas loin. C'est un alors ça c'est Ion Fury que tu as mis là. Je sais pas si c'est... Ah non, c'est bon. Excuse-moi, je me suis trompé. Oui, effectivement, c'est Phantom Fury. Donc Phantom Fury, c'est la suite de effectivement Ion Fury. Alors, peut-être que ça parlera pas à tout le monde. Ion Fury, c'était un FPS qui est sorti il y a 3-4 ans maintenant, qui était ce qui fait partie donc cette vague de rétro FPS qui s'inspirait beaucoup de Duke Nukem 3D, puisque même c'était le même mode, c'était même le même moteur que Duke Nukem 3D boosté au jeu, pour avoir pour être sur les 122 000.
Pour aller au bout du délire, là, ils ont pris le
voilà, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que Phantom Fury, lui, on va dire, va sauter une génération en termes de FPS, c'est-à-dire autant le premier s'inspirait des FPS des années 90, 1090, on va dire, autant Phantom Fury, par contre, va plutôt s'inspirer des FPS du début des années 2000 et de la fin des années 90. Le modèle évident quand on joue à ce jeu, c'est Half-Life, c'est aussi Unreal, c'est No Man's Live Forever, éventuellement Half-Life 2 sur certains points, bon, qui est sorti un petit peu plus tard. Donc, si ces jeux-là vous parlent, j'espère que ça vous parle, je ne sais pas si ça te parle. Est-ce que c'est des jeux que tu as fait à l'époque
Bah oui, mais à l'époque, tu vois. Bah, c'est,
Oui, voilà. Alors voilà, je commence à voir ton petit sourire en coin et ton petit dédain là, dans la voix, s'il te plaît, Patrick. Non, mais en fait...
C'est le même oui, que alors. Quand je commence à parler de Destiny ou de jeux de combat que je sens chez toi, tu vois. Donc, c'est bonne
ça,
guerre.
C'est ça. Donc, voilà. Donc, et en fait, Phantom Fury, ça s'inspire vraiment de ces jeux-là. Donc, on est sur un FPS en full 3D cette fois-ci. Mais avec, franchement, et j'insiste sur le fait que ça a vraiment de la gueule. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins rétro que les jeux auxquels on a pu voir avant, genre Dusk, Iron Fury, ces jeux-là qui ont vraiment une gueule de jeu rétro. Là, Phantom Fury vraiment est très joli, avec un côté pixelisé, mais juste ce qu'il faut. Enfin, vraiment, je trouve que c'est plutôt propre. C'est un jeu qui a aussi un arsenal super agréable, avec plein d'armes, beaucoup de violence complètement, va dire décérébrée, etc. C'est assez rigolo. Moi, c'est un jeu que j'aime bien, avec toutefois certains petits défauts, dans le sens où il y a plein de petits trucs un peu cheap, il y a pas mal de petits bugs, le jeu est un peu mal fini par moments. J'ai eu quelques petits soucis de bugs, même si j'en ai eu moins que certains testeurs qui ont apparemment ont eu des gros soucis de tests, de bugs. Et c'est un jeu qui, des fois, pêche un peu par son level design qui se veut un peu trop labyrinthique. Et étant donné qu'il n'y a pas de carte, il y a des fois où tu te dis, bon, bah, je tourne un peu en rond, où est-ce que je dois aller pour continuer la map, etc. Ça peut être un poil relou. Par contre, il arrive quand même très très bien à, je trouve, te redonner les sensations de ces FPS de l'époque, avec quand même une certaine modernité, donc encore une fois une réalisation qui est quand même assez cool, des options de mouvement, notamment la glissade, des choses comme ça qui n'étaient pas dans ces jeux de l'époque. Et franchement, c'est plutôt un jeu sur lequel je m'amuse beaucoup, avec évidemment le fait qu'il faut être sensible un tout petit peu à ces ambiances-là, à ces jeux de cette époque. Et malgré tout, le fait que, enfin, tu vois, j'imagine que Patrick, tu vas me dire, mais moi, si je veux rejouer à ces jeux-là, je rejoue à Half-Life, je rejoue à Half-Life 2. C'est vrai, tu peux tout à fait faire
ah
ça.
Ah non, même pas. Non, moi, je suis tout à fait. Je comprends tout à fait l'envie de jeu moderne dans ce style-là, parce que j'imagine aussi que, enfin, tu vois, ils sont. On évoquait dans la chatroom les jeux style N64. C'est vrai que c'est ce que ça évoque, mais c'est à peu près 10 fois plus beau qu'un jeu N64. Ah, c'est comme on s'en souvient.
Non, c'est vraiment plus beau. C'est vraiment comme Half-Life, mais c'est une sorte d'Half-Life boosteuse hormone visuellement. Tu vois, il y a vraiment des passages, bah, typiquement dans le désert, ce genre de truc, où là, ça va vraiment rappeler Half-Life. T'as vraiment des trucs un peu plus horrifiques, un peu plus explorer un vieux laboratoire avec des soldats biomécaniques. Enfin, voilà, ça reprend tous les délires un peu couillons, on va pas se mentir, hein, notamment au niveau du scénario de tous ces FPS de l'époque. Et ça le fait vraiment plutôt bien, avec certaines limites quand même en termes de level design et choses comme ça. Mais c'est un jeu, enfin, moi, je m'amuse beaucoup parce que juste, un peu comme une shoot adventure, je trouve. Qu'il y a un côté très satisfaisant dans les combats. Il y a vraiment des combats assez tendus par moments où il faut vraiment se mettre à couvert, il ne faut pas faire n'importe quoi. Enfin, c'est plutôt malin. Donc, voilà, je recommande. Je recommande globalement Phantom
Fury. Tu sais, pour tout le dédain que tu sens de ma part sur ce genre de jeu, je dois dire que, contrairement à un truc comme Lunar, où vraiment je n'ai pas du tout accroché, un bon fast FPS, parce que je ne vais pas dire boomer shooter, mais un bon fast FPS, moi, ça peut complètement me parler. Hein. Tu vois, c'est les trucs à la sauce, si on part un petit peu des standards type Doom, Quake, Half-Life, truc à la sauce Painkiller, par exemple, et là, on est vraiment dans le fast FPS pur jus, ça peut me plaire à fond, quoi. Donc, jour...
Painkiller qui est déjà un peu ancien maintenant, mais par exemple, tu vois, moi, j'en parle souvent de ce jeu, mais si tu t'en fais un, moi, Dusk est vraiment... pour moi le meilleur, parce qu'il offre une des sensations absolument géniales, un level design de fou et une ambiance Dusk. D-U-S-K. C'est okay. Un jeu qui est développé par une personne, David Simonski, qui est un super développeur, et D-U-S-K, c'est le pape dans ce genre de jeu, quoi. Vraiment, je trouve qu'on n'a pas fait mieux depuis, et si même les trucs à la Doom, avec une beaucoup plus tendance à la Doom, il faut jouer à Prodeus, P-R-O-D-D-E-U-S, qui est un très bon shooter aussi, avec un style, encore une fois, c'est Doom, mais Doom en plus beau, enfin plus beau, avec une technique en tout cas plus impressionnante, et c'est vraiment chouette aussi.
Écoute, il faut que je les mette sur la liste, et puis un jour, quand j'aurai du temps...
J'aimerais bien t'entendre parler de ces jeux-là, ouais, bien ce que j'ai testé, qu'est-ce que j'en ai pensé. Quoi.
Ça sera un challenge à faire à un moment.
Ça sera un challenge à faire, voilà, c'est ça. Donc, et en échange, je te promets de me mettre à Destiny 2, si tu veux.
Oula ! Attends, sérieux ?
Bon, non, je m'engage peut-être beaucoup. Je m'engage beaucoup, là. Alors, peut-être pas Destiny, mais je sais pas...
Non, mais peut-être qu'on peut faire un échange de bons procédés. Moi, je teste un des jeux pendant, on va dire, 5 heures, et puis tu fais Destiny pendant 5 heures, et on compare nos notes, un truc du genre.
Ouais.
Ça pourrait être...
Bah, sauf que Destiny pendant 5 heures, je pense que t'es gratté que la surface, alors qu'un Red Dead PS pendant 5 heures, ça...
T'as gratté la surface, c'est vrai, mais le feeling du... Tu sais, on parlait de game feel tout à l'heure avec Mini Shoot Adventures. L'intérêt de Destiny, c'est vraiment le game feel du FPS. Et ça, tu le sens assez vite quand même. Peut-être que 5 heures, c'est un poil court. Et bien sûr, après, tu as plein d'armes, plein de trucs. Mais je pense que même en 5, 6, 10 heures, Destiny, même en 5 heures, je pense que tu as bien compris le game film, même si tu as juste des armes de base. Tu n'as pas toute la richesse du jeu, mais tu peux sentir.
Pour le coup, j'ai joué à Destiny, j'ai joué au premier Destiny quelques heures quand même. Donc, j'ai déjà un peu une vague idée de ce que c'est quand même malgré tout. Quoi.
Bon, tu sais que c'était il y a 10 ans, hein, le premier Destiny, donc ça a un petit peu évolué.
Déjà, j'avoue.
Bon, donc c'était Phantom Fury. Il est dispo sur Steam, je crois.
Que PC pour le moment.
Je vois le logo de 3D Realms, de 3D Realms.
Oui, c'est édité par 3D Realms.
C'est édité, d'accord, ok.
Oui, c'est pas eux qui font, c'est eux qui éditent. D'accord. Sleepgate Ironworks, je crois, qui développe. En fait, 3D Realms, maintenant, c'est devenu une sorte d'éditeur. Enfin, c'est un éditeur qui édite beaucoup, forcément, des shooters rétro, quoi, comme ça.
C'est vraiment ça.
Sa spécialité.
Non, mais c'est marrant parce que 3D Realms, c'est.
C'est Duke Nukem 3D.
Duke Nukem, voilà. C'est Duke Nukem.
C'est Duke Nukem 3D. Et effectivement, ils ont fait juste avant ça, édité juste avant ça, un jeu qui s'appelle Cultic, qui est cité dans le chat. Et Cultic, c'est super bien aussi. C'est plus horrifique et c'est génial aussi. Très bon.
On dit fait Cultic avant Patrick. Bon, il y a des choses à faire alors. Prodeus et Rust. Non, Dusk. Bon, Dusk. Je précise aussi, parce qu'on ne l'avait pas dit la semaine dernière, et dans la chatroom décidément, qui est hyper active aujourd'hui, je précise que Mini Shoot Adventures est disponible sur Mac également, et qui fonctionne très bien. Donc,
Et surtout, à quand une version Switch, hein, parce que c'est un jeu portable parfait. Hein. Moi, je l'ai fait sur Roguelite, c'est vraiment parfait
portable. Ça va arriver sur toutes les consoles, Mini Shoot, c'est garanti.
J'espère.
Allez, on enchaîne avec le reste de l'actu. On va courir un petit peu plus rapidement. On a d'abord, juste pour signaler que Star Wars The Old Republic bouge encore, et même plus que bouge encore, c'est un jeu qui continue à être mis à jour. Alors, je ne vais pas détailler la mise à jour, mais c'est intéressant de noter que c'est un MMORPG, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, le MMORPG Star Wars, qui existe encore. Alors, ce n'est plus BioWare qui s'en occupe, mais il existe encore. Et c'est comme... Elder Scrolls Online, il n'y a pas que Warcraft qui continue, il y a Star Wars, Elder Scrolls Online, alors il y en a d'autres, hein, si je ne me trompe pas, EverQuest est encore parmi nous.
Oula, oui.
EverQuest.
Ultima Online marche encore aussi. Hein.
Online, il n'est plus maintenu. EverQuest, il est vraiment...
Si. Alors, je suis quasiment sûr que Ultima Online est toujours maintenu. Hein,
c'est vrai ?
Il faut que je vérifie.
Putain.
Bah, je crois, ouais. Attends, laisse-moi vérifier.
D'accord, bon, vérifie. on me dit dans la chatroom, Patrick, ouvrez les guillemets. Allez, j'essaye. Et puis ensuite, lance Overwatch. C'est possiblement ce qui se passe.
Je suis sur le site officiel d'Ultima Online. C'est Play for Free Now. Je peux jouer à Ultima Online. Oh, c'est toujours, le jeu est toujours actif.
Incroyable. Bon, écoute.
Je serais curieux de savoir le nombre de joueurs qu'ils ont.
C'est ça la grande question. Oui. Bon, remarque, elle s'applique aussi.
Je pense
que
ça doit être des mecs ou des nanas. 65 ans aujourd'hui, tu vois, qu'on avait 30
ans à l'époque. T'as un peu coupé.
et qui continue à y jouer,
c'est,
quoi.
C'est des mecs et des nanas qui ont quoi 50 ans aujourd'hui et qui en avaient 20 à l'époque où il est sorti.
Qui doit avoir 65 ou 20, ouais, c'est ça. Je suis quasiment sûr que c'est ça, ouais.
Lego Fortnite a une update Star Wars. Ils ont vraiment investi beaucoup dans Epic, hein, je crois, chez Disney. Et l'update Star Wars de Lego Fortnite, elle est assez folle. Enfin, elle a l'air assez folle. Donc ça continue là aussi et c'est hyper ambitieux, hein, Lego Fortnite. On a eu aussi une annonce d'un jeu Batman Arkham, le prochain jeu Batman Arkham. Alors si vous pensiez que on n'a pas connu un succès fou avec Suicide Squad qui est la suite officielle, peut-être que Arkham Shadow saura vous convaincre, sauf que c'est un jeu VR sur MetaQuest uniquement. Faut pas s'en moquer trop, parce que le truc qui m'avait vraiment plu, c'était la petite démo de Arkham, je sais plus comment ça s'appelait, c'était une petite démo VR sur PlayStation VR. C'était super
Arkham
cool.
Arkham VR, ça s'appelle, je crois, tout simplement.
Arkham VR, tout à fait, ouais. Donc peut-être que ça sera sympa, ce jeu. Bon, ça risque d'être un peu comme la démo en plus long. Mais ça m'avait fait un vrai effet waouh VR, quoi. Après, je sais pas si ça aurait fait un effet waouh sur le jeu complet. Puis, le trailer, il dure à peu près 10 secondes, on voit pas grand-chose, mais ça a l'air beau. Bon, voilà. Il y a eu l'Evo Japan, dont je vous avoue que j'étais un petit peu occupé et malade, et avec les enfants et les enfants malades, donc j'ai pas trop suivi. Par contre, il y a eu un trailer pour la saison 1 de Tekken avec, comment elle s'appelle, Lydia, la présidente de la Pologne, qui est un personnage de Tekken, enfin dans le monde de Tekken, c'est la présidente de la Pologne, et elle est le prochain personnage de Tekken. Ça me parle parce qu'elle était sortie sur le set et je ne l'avais pas trop joué, et en fait c'est un personnage qui fait du karaté Shotokan, et moi quand j'étais plus jeune dans ma lointaine jeunesse je faisais du Shotokan, et c'est un karaté hyper rigide, quoi. C'est vraiment on fait des mouvements secs, et donc j'ai toujours voulu la jouer et j'ai jamais pris le temps sur le 7, donc peut-être que je le ferai sur le 8. Et on a aussi Akuma qu'on a enfin vu dans Street Fighter 6, qui continue son petit bonhomme de chemin. Il y a un gros patch qui devrait arriver, et Akuma, il fait toujours plaisir aux joueurs, aux anciens. Donc voilà, il a une tête un petit peu bizarre maintenant dans Street Fighter 6, mais au moins il est original. Et puis bon, c'est Akuma, enfin quand je dis original, faut le dire vite, hein, c'est Akuma. Donc, il continue son petit bonhomme de chemin. Il y a eu aussi d'autres annonces avec lesquelles je ne vais pas vous embêter, mais Fatal Fury City of the Wolves, il y a eu un personnage qui a été annoncé. Je trouve toujours pas très beau ce jeu, Fatal Fury. Je ne sais pas. Pourtant, City of Wolves, je suis curieux de voir comment ils vont le ressusciter. Mais bon. Il y a aussi Dragon Ball, Guilty Gear Strive, etc. On parlait de Lego tout à l'heure. Savez-vous qui d'autre investit beaucoup d'argent dans le jeu vidéo ? Hasbro. Hasbro qui est, entre parenthèses, Wizards of the Coast, donc Donjons et Dragons. Ils investissent 1 milliard. Ils ont 4 studios en interne qui vont faire des triple A. Et ils vont faire des gros jeux, du coup, chez Hasbro. Ils investissent 1 milliard, c'est pas mal. À côté de ça.
Bah, Baldur's Gate 3, hein, je pense que ça leur a dit ça marche bien le jeu vidéo, disons.
C'est ça, exactement.
Voilà. Après, on rappelle qu'Hasbro, ils ont quand même licencié beaucoup en fin d'année dernière. Alors, pas forcément sur la partie jeu vidéo, hein. Mais bon, bref, c'est quand même à rappeler.
Le truc qu'il faut retenir, c'est que les jeux, ils marchent bien quand c'est des jeux qui sont bien faits, tu vois, et pas faits rapidos. Voilà. Parce que l'Ariane, ils ont mis beaucoup d'amour dans Baldur's Gate 3. On peut oser espérer que les studios internes seront traités avec autant de patience et de respect.
étant donné qu'on sait qu'a priori, l'Ariane ne fera pas Baldur's Gate 4, je suppose qu'ils sont Hasbro est à la recherche d'un studio qui serait prêt à s'attaquer à BG4. Donc, autant dire qu'il va falloir avoir les épaules sacrément solides.
C'est sûr. On nous dit dans la chatroom, Dr Maboul, le jeu vidéo. Mais oui, complètement. Il y a un Monopoly sur mobile qui marche très très fort, visiblement. Donc oui, c'est un peu ça. Non, mais ils ont des propriétés, tu vois, il y a plein de trucs chez Hasbro qui peuvent être convertis en jeux qui sont cohérents, quoi. Bon.
Même si on sait que 90% de ce qui sortira, ça va être Donjons et Dragons, faut pas rêver.
C'est possible. Non, peut-être pas. Non, à mon avis, ils vont vouloir diversifier. Enfin,
Transformers aussi, peut-être.
4 studios, 1 milliard dans 4 studios, ça fait en moyenne 250 millions par studio, par jeu, ou peut-être qu'ils vont faire, tu vois, chaque studio va commencer par un jeu. Il y a de quoi faire des choses quand même, tu vois, des choses sérieuses. Hein.
Bah, ils ont aussi G.I. Joe, figurez-vous. Ils ont aussi Transformers, évidemment. Mon petit poney, c'est eux. Donc voilà, et Play-Doh, vous savez, la pâte à modeler Play-Doh.
Les gens qui ont des enfants savent très bien, oui, effectivement. Mais Play-Doh, il y a des trucs à faire, hein. Par exemple.
Un Minecraft en pâte à modeler.
Ouais. Bon, la place est peut-être déjà prise hein, entre Lego Fortnite et...
Faire un Minecraft-like aujourd'hui, c'est très, très risqué.
Microïds continue avec les propriétés des années 80, un petit peu oubliées dans le jeu vidéo, avec les Schtroumpfs. L'épopée des rêves, c'est un platformer 3D sur les Schtroumpfs. Bon, bah, ils continuent Microïds après Goldorak. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait d'autre ? Je ne sais plus. Bref.
Oh, bah, Tintin, même si c'est un peu différent, mais Tintin, c'était eux. Le dernier Tintin, c'était eux. C'est, malheureusement,
Marsupilami, c'est à ça que je pense.
Marsupilami, c'était eux, bien sûr. Ouais. Ah ouais, non.
C'était eux hein, aussi. Ah non, c'était peut-être Focus qui est. Oh, je sais pas.
Astérix, c'est eux.
Ouais. Bon, voilà.
Astérix, c'est eux. Enfin, ils ont un gros paquet de licences BD franco-belge / dessin animé, etc. Oui, oui, bien sûr.
J'ai un peu l'impression qu'ils font des jeux. Enfin, moi, j'espérais, tu vois, que ça soit des jeux qui leur permettent de faire des jeux de des trucs de grosse qualité pour. Excusez-moi, c'est un peu dur. Le petit qui a fait un cauchemar cette nuit et qui m'a réveillé en plein milieu. Bref. J'espérais que ça ait plus d'ambition, on va dire.
Alors, ils ont un RPG de pirate qui a l'air assez ambitieux, dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais qui est en production là, qui peut potentiellement être intéressant.
Ah, bah peut-être. À voir. Bon, il y a ça. Il y a aussi, je voulais mentionner que Assassin's Creed Mirage arrive sur mobile. Début juin, le 6 juin. C'est un jeu qui a 50 euros, hein, comme d'autres qui sont sortis sur mobile récemment. Mais c'est pas tant parce que je pense que ça va être intéressant pour les auditeurs de cette émission d'aller acheter Assassin's Creed Mirage sur iOS. Je dis sur mobile, mais c'est iOS spécifiquement. D'acheter Assassin's Creed sur iOS à 50 boules. Mais simplement parce que c'est intéressant que encore des jeux premium arrivent sur mobile. Je pense que Apple est un peu dans la boucle là-dedans. Je ne sais pas si Ubisoft l'aurait fait d'eux-mêmes sur mobile pour ce prix-là, mais peut-être. Et puis, on parlait des jeux qui ramassent, qui connaissent un gros succès. Je l'évoquais rapidement la semaine dernière, mais Manor Lords a encore un énorme succès. C'est... une sorte de Civ City Builder, on va dire, médiéval, où on est à 6 ou 8 sur une carte, etc. Il a vendu 1 million de copies encore. C'est un développeur indé polonais qui fait ça. Et il était à 170 000 joueurs simultanés sur Steam. 1 million, il est sorti la semaine dernière. Et beaucoup de retours positifs, quoi.
C'est clair. C'est le balatro médiéval.
C'est ça, ouais.
Fait par une personne et ça surcartonne.
Et puis de l'autre côté, du côté des trucs qui cartonnent moins, il y a Keoken Interactive, c'est le studio qui avait fait Deliver Us the Moon et Deliver Us Mars, qui n'a pas réussi à trouver d'éditeur pour son prochain jeu et donc ils sont obligés de licencier tout le monde, toute la boîte. C'est évidemment malheureux.
Je pense que malheureusement, ouais. Ouais, et puis ça vient peut-être aussi de l'échec de Deliver Us Mars qui était déjà malheureusement raté et puis bah, qui a pas dû se vendre du tout. Quoi. Ouais.
C'est ça. Mais ils ont un autre jeu en développement, ils vont essayer d'en faire quelque chose, mais ils ne peuvent plus. En fait, ils espéraient à la GDC trouver un éditeur et ils n'ont pas trouvé. Donc c'est dur. Et Take-Two, vous vous souvenez que Take-Two a racheté
Gearbox.
Il y a 2 semaines, un truc du genre, pour 500 millions. Ils ont fermé 2 studios, Intercept Games, qui fait Kerbal Space Program, et Roll7, qui a fait Roller Dome, et Holy Holy World. Donc, ils ont fermé 2 studios, et ils ont licencié une grosse partie
c'est chaud, hein.
Mais de leurs équipes.
Exemple, typiquement, Kerbal, et surtout, c'est quoi l'avenir de... Enfin, on s'interroge sur l'avenir de Kerbal, parce que Kerbal Space Program 2, qui est en early access depuis au moins un an maintenant, qui est quand même un jeu qui fédère une très grosse communauté, enfin, qui a quand même sa communauté qui est assez grosse. C'est quoi l'avenir pour cette licence, quoi. Donc, et puis surtout ce jeu qui est en early access, qui sortira peut-être jamais dans early access, du coup, je sais pas.
Et puis c'est bizarre parce que c'est des noms qu'on connaît quand même, qui ont été appréciés, tu vois. Roller Dome, il a été très bien reboué,
Holy
World aussi. Mais je pense qu'ils n'ont pas fait de vente, tu vois. Nous, on les connaît et on les apprécie.
Kerbal a très bien marché. Kerbal, c'est un vrai succès. Hein.
Complètement, complètement. Mais le 2, Je ne sais pas si tu vois, il est en early access, il a une communauté forte, mais est-ce que ça veut dire que les ventes, les ventes suivent ouais. Je ne sais pas, peut-être que pour Take-Two, c'est des trucs qui ne valent pas le coup, quoi. Ça ne rapporte pas assez, ouais, mais bon, bref. Tu vois, si je me fais un tout petit peu l'avocat du diable, je comprends qu'ils ont dépensé énormément d'argent pour acquérir Gearbox, mais quand tu es ce genre de développeur, quand tu es ce genre d'éditeur, bah, peut-être qu'à un moment, il faut faire des choix. Et ce n'est pas une question de le jeu, est-ce qu'il marche ou est-ce qu'il ne marche pas, c'est combien ça rapporte.
Ouais, bien sûr.
Et pas un petit
après,
développeur.
Après, ils auraient pu, au lieu de fermer les studios, ils auraient pu, je sais pas, les mettre sur autre chose, les répartir les gens. Enfin, bref, c'est dommage de laisser partir des talents aussi, quoi.
Bah, ils auraient pu dire, bon, bah, si vous voulez continuer vos jeux dans votre coin, reprenez votre indépendance, par exemple. Mais c'est aussi, du boulot, oui. Et puis peut-être qu'ils veulent garder les IP, tu vois. C'est ça aussi, c'est le terrible monde de Dallas, ton univers impitoyable, quoi. C'est des IP qui existent, qui veulent peut-être réutiliser à un autre moment. Bon, c'est leur truc, c'est eux qui ont payé, c'est à eux, quoi.
Ouais, c'est clair.
Bon, donc voilà pour les mauvaises nouvelles. Sur le PlayStation Plus, il y aura eSports FC 2024, déjà. Alors, c'est disponible sur PlayStation Plus, mais après, il faut payer les FIFA Ultimate Team, les paquets de cartes, hein, bien sûr. Il y a oui. Ghost Runner 2 qui arrive, Tunic et Destiny 2, Lightfall, pour se préparer à Destiny 2, The Final Shape, qui arrive dans un mois. Donc voilà, vous pouvez vous amuser là-dessus si vous avez l'abonnement PlayStation Plus, c'est le essentiel. Donc c'est les jeux
Tunic, dans genre Zelda-like, ça se pose là aussi. Hein. C'est vraiment c'est un très bon jeu.
Ouais, c'est sympa.
Ah oh, si, t'as pas aimé toi?
Bon, moi je l'ai trouvé sur iPad. Si.
Ah ouais, non, j'ai trouvé ça enfin, en termes d'exploration. Alors par contre, c'est un jeu qui peut être très dur, encore plus que Minish Shoot Adventure, parce que tu peux être vite perdu et tout ça. Bah, mais il y a des parties pris que je trouve intéressantes.
Enfin, il m'a saoulé. En fait, le truc que j'ai aimé, c'est le manuel de Tunic, tu vois, c'est vraiment cool le fait de réussir ouais. à recréer ouais. l'ambiance du manuel de l'époque. Mais par contre, le jeu, il était sympa, je l'ai bien aimé, mais au bout d'un moment, t'es tellement en train de chercher où tu vas pour la suite, ça m'a saoulé.
Ouais, ça c'est un petit... Il faudrait une option, pour... bref, c'est... Ouais. Oui, c'est vrai qu'il aurait fallu une option peut-être pour guider un peu plus les joueurs, parce que t'as vraiment, il y a des moments... Par exemple, c'est typiquement le genre de jeu, si tu le lâches pendant une semaine, c'est mort. Ouais. Tu relances, tu sais plus où t'es, tu sais plus où aller, quoi.
C'est
faut
ça, exactement.
Faut le faire sur une... Ouais. C'est un peu dommage.
Garry's Mod va devoir supprimer tout le contenu Nintendo. Garry's Mod, c'est un sandbox, c'est le sandbox game qui existe depuis 20 ans. Et Nintendo leur a demandé de supprimer le contenu lié à Nintendo. Et donc, ils vont devoir aller passer en revue tout le contenu qui a été ajouté par les utilisateurs dans Steam Workshop pendant 20 ans pour supprimer le contenu Nintendo. Bon, après, là aussi, c'est le droit de Nintendo. Hein, s'il y a des trucs qui sont construits avec des assets de leurs jeux, des Mario et des Zelda, bon bah, ils ont le droit de demander d'enlever et c'est ce qu'ils ont fait. Et enfin, Unity a trouvé un nouveau CEO. Vous vous souvenez que le fameux John Ricciatello avait une super idée pour le business model de Unity qui avait causé un outrage dans la communauté des développeurs. Ils ont dû rattraper le coup et ils ont viré Ricciatello. Ah pardon, il a décidé d'aller passer plus de temps avec sa famille. Donc vous vous demandiez qui pourrait remplacer cette ex-ponte de Electronic Arts qui avait bonne presse, hein, bien sûr, dans les milieux autorisés. Eh bien, ils ont été trouvés le Chief Operating Officer de Zynga, Matthew Bromberg. Alors, c'est certainement quelqu'un de très bien, mais c'est marrant. C'est juste marrant que Unity, tu vois, qui est un développeur d'outils de third party, de développement, je veux dire, soit aller chercher quelqu'un de chez Zynga qui est à fond dans le jeu mobile et la ouais. monétisation, tu vois, à fond pour devenir son nouveau CEO. Ça donne un petit peu l'idée de l'orientation qu'ils veulent prendre avec leur monétisation à l'avenir, j'ai l'impression. Je me trompe, mais j'ai l'impression.
Ouais. Vivement la news dans un an où tu annonces, tu apprends que le gars de Zynga s'en va suite à un tollé, suite à une polémique. tu vois, on parle dessus, à mon avis. Hein.
À mon avis, il va être plus prudent quand même. Et puis, bon, là encore, je me fais un peu l'avocat du diable, mais à un moment, Unity, il faut qu'il fasse de l'argent.
J'espère qu'il ne fera pas deux fois la même erreur de code.
Ouais, c'est ça. Mais il faut qu'il fasse de l'argent. J'ai l'impression qu'il ne faisait pas d'argent, en fait, Unity, qu'il ne réussissait pas suffisamment à monétiser parce que Unreal Engine est tellement énorme et tellement accessible parce que Epic a tout l'argent du monde et ils sont en situation enfin pas de monopole, c'est pas vrai, mais ils sont tellement puissants. Bon, il y a des jeux qui sont développés sur Unity quand même, c'est un truc un peu plus simple et plus cross-plateforme et tout, mais encore que maintenant, Unreal a peut-être réussi à combler ces problèmes-là. Mais... Bref, voilà. Matthew Bromberg, bon courage à lui chez Unity. Et c'est la fin de cet épisode avec nos petites news rapides. Merci, JK, d'avoir passé ce moment délicieux avec moi. J'espère que tu t'es autant amusé que moi. Et est-ce que tu peux nous dire où on te retrouve sur Internet quand tu n'es pas dans mon débat ?
Sur Internet, sur le podcast ZQSD que vous connaissez peut-être, enfin en tout cas de nom, parce que j'en parle à chaque fois que forcément je viens dans l'émission. Dans le dernier numéro, c'est marrant, on a refait nos élections des meilleurs jeux rétro, et cette fois-ci, on s'est intéressé aux jeux consoles. Voilà, on a élu les GOTY 95, 96, 97, et 99.
Mais attends, ZQSD, il n'y a pas de touche ZQSD sur
On a fait un hors-série console où la science, ce qu'on appelle la science, donc c'est-à-dire un jeu à base de quiz et de questions de culture générale, nous a permis de savoir qui était le meilleur entre Shenmue et Silent Hill, entre GoldenEye et Final Fantasy.
Entre Shenmue et Silent Hill, le 1 ?
Oui, parce que... oui, le premier, bien sûr, mais je ne dis rien, je
d'accord.
Évidemment, compte tenu de l'émission.
Entre Shenmue et Silent Hill, faut quand même trouver des sacrés fans du second, du premier, pour le mettre au-dessus de Silent Hill. Mais bon, écoute, justement...
ça me rassure, j'ai cru que t'allais dire, vous verrez qui gagne, En fait, le principe, c'est qu'on a, à chaque fois, il y avait 8 jeux, une liste de 8 jeux, et je posais des questions, on va dire, sur plein de sujets différents, et celui qui trouvait la réponse avait le droit d'éliminer un jeu, et au final, à la fin, on arrivait à chaque fois le meilleur jeu de telle année. Donc vous verrez ça. Voilà, on s'est bien marré à faire ça. Et donc voilà.
Sur zqsd.fr, zqsd dans toutes vos applications de podcast. Pour ma part, c'est Note Patrick un petit peu partout, vous le savez. Vous avez aussi accès aux liens vers tout ce que je fais dans les notes de l'émission ou sur notepatrick.com. Il y a le Discord, il y a le groupe WhatsApp. Je ne sais pas si on le mettra dans les notes de cette émission, peut-être. Il y a la chaîne Twitch, la chaîne YouTube en replay, tout ça. Et bien sûr, on est en live tous les mardis midi pour le rendez-vous tech et le jeudi midi sur Twitch. Et dans toutes vos apps de podcast, hein, c'est comme ça que les gens nous écoutent, évidemment. Et vous pouvez aussi soutenir l'émission sur Patreon, patreon.com/rdvjeux. Le lien est dans les notes de l'émission. Comme ça, si vous êtes en train de finir d'écouter l'émission et vous dites « Oh, bah, c'était sympathique, je soutiendrai bien un petit peu cette émission », et bah, vous pouvez y aller maintenant, tout de suite, là, quand vous êtes en train de rentrer chez vous dans les transports. Vous pouvez y aller pour créer votre compte Patreon et soutenir, ou soutenir si vous avez déjà un compte Patreon. Ou alors, quand vous arrivez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling. Et là, vous dites « Patrick, ok ». Patrick, Kling, Patrick, je vais aller sur mon ordinateur, regarder de quoi il s'agit. Voyez si vous trouvez quelque chose qui vous plaît dans ce Patreon pour soutenir le rendez-vous jeu. Merci à tous et à toutes, je vous fais de gros gros bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.